Ouais, merci beaucoup, Marc, de me recevoir dans Nexus. Merci pour tout le travail que vous faites aussi, qui n'est pas si facile que ça, pour les journalistes d'arriver à tenir un son de cloche un petit peu dissonant par rapport à la narration gouvernementale et officielle. Donc, c'est assez sain qu'il y ait plusieurs regards sur le joyau multifacette qu'est la réalité, quoi, hein. Bon, voilà, on a une grosse facette qui est celle des médias mainstream, puis c'est bien qu'il y en ait d'autres. L'autre chose, c'est que vous avez dit que j'étais médecin anesthésiste réanimateur. Effectivement, j'exerce à Marseille et je tiens d'emblée à préciser que je ne parle pas pour mon institution. Un contrat que j'ai passé avec eux et je leur suis très reconnaissant de finalement de m'avoir laissé de la liberté de parole. C'est une preuve d'une très grande intelligence de la part des gens de mon institution. Et en échange, ce que je respecte, c'est de dire vraiment que je ne parle pas au nom de l'institution. On n'a pas du tout la même ligne sur plein de points divers.
D'accord.
L'autre chose, c'est que j'ai une autre casquette encore. C'est que moi, j'ai un Master 2, l'équivalent un peu d'un DEA, si vous voulez, en anthropologie de la technique, en éthique médicale, centré autour de la question de la technique en santé et de l'anthropologie de la technique, et qui me donne un regard un peu plus, en gros, de philosophe, de sociologue, d'anthropologue sur le sujet. Alors, votre première question, elle était autour du fait de mais qu'est-ce qui m'a poussé en fait à prendre la parole? Vous avez raison parce que y a beaucoup de médecins qui ont peur. Vous avez vu passer comme cadeau de Noël pour le 25 décembre, une révision par décret du code de déontologie pour l'ordre des médecins qui limite en gros la parole des médecins. Hein, on peut le voir comme ça, c'est une limitation de la liberté d'expression, disant vous ne devriez pas dépasser la ligne rouge qui est le savoir parfaitement admis. C'est une vision très simpliste de ce qu'est la science et de ce que c'est que le savoir admis, comme s'il était fixé une fois pour toutes et qu'on pouvait rester dedans ou dehors. Non, la réalité, c'est que le savoir passe son temps à bouger, que les connaissances médicales et scientifiques passent leur temps à évoluer. Et donc, c'est une illusion de penser qu'on pourrait toujours être dans la doxa dominante et que ce serait quelque chose qui serait sain. Non, là, sinon, vous tombez dans le moment arriéré de l'humanité. Où finalement, chaque fois que vous avez une pensée un petit peu divergente par rapport au dogme, bah vous allez être mis au bûcher.
C'est une nouveauté, ça, ce changement de, pardon, Caroline, ce changement de déontologie, ce code de déontologie, c'est une nouveauté, cette recommandation, cette exigence
Ah
du Conseil
oui.
de la Santé.
Faut aller voir, c'est un texte par décret qui a été passé là le 25 décembre 2020 pour un petit cadeau de Noël pour nous dire faites attention. Donc en fait, effectivement, pour les médecins, vraiment. Dès que vous vous exprimez dans les médias, il y a un peu une ligne rouge. Moi, c'est ma chance, c'est que je ne suis pas juste médecin, je suis citoyen, je fais de la recherche en anthropologie de la technique, et puis je suis porte-parole citoyen d'un collectif Réinfo-Covid qui regroupe des chercheurs, des enseignants, des médecins, des soignants, des aides-soignants, des restaurateurs, des entrepreneurs, des artistes. Donc, on a un très bon reflet de la société civile avec un niveau d'intelligence, de compétences et de savoir qui regroupe des gens qui vont depuis la philosophie, la sociologie, l'anthropologie, la recherche sur le génome viral, la recherche en ingénierie virale, des gens qui font de la recherche en biomatériaux, des mathématiques fondamentales. Donc, des anesthésistes réanimateurs, des généralistes, des épidémiologistes, des infectiologues. Et donc, quand moi, je vous parle, en fait, et quand je parle dans les médias, j'ai tous ces gens derrière moi, et moi, je suis leur porte-parole. Donc, je suis à la fois très honoré de pouvoir être leur voix, mais il faut imaginer que derrière, il y a un niveau d'intelligence, de compétence, de capacité critique qui dépasse très, très largement la petite personne du docteur Fouché. Hein. Très
On parle de
largement.
combien de personnes derrière vous?
Vous pouvez considérer qu'il y a une cinquantaine de personnes, 60, allez, 60 personnes dans le cercle cœur, c'est-à-dire vraiment la coordination intime du collectif, 450 contributeurs directs, c'est-à-dire des gens qui vont participer à des tribunes, à des écritures de textes, à des écritures, et puis qui sont signataires du manifeste de Réinfo-Covid. Vous avez 28 000 personnes maintenant qui sont abonnées à la newsletter, 60 000 abonnés peu ou prou à la chaîne YouTube, Facebook, j'en sais rien. Et puis ensuite, il y a tous les collectifs locaux, puisqu'on cherche à mettre en lien les collectifs locaux, donc des gens qui sont partout. Puis on commence à avoir des bébés réinfo-Covid. Vous avez des réinfo-Covid au niveau territorial qui commencent à arriver avec nous et presque malgré nous. Hein. Et tant mieux, en fait. Le but, ce n'est pas que réinfo-Covid soit une espèce d'énorme machine, au contraire. Et nous, on cherche à inspirer, à donner un regard critique et surtout à redonner du re-empowerment aux gens. Et c'est, ça rejoint la question que vous m'avez posée, c'est pourquoi j'ai commencé à parler ? Parce que je commençais à être dans une souffrance terrible liée à la différence entre ce que je percevais de la réalité par mon travail de réanimateur au quotidien et de la gravité de cette épidémie, et puis la narration médiatique et gouvernementale qu'en était faite, avec une tension entre le réel et l'histoire qu'on racontait qui devenait insupportable. Et surtout, une narration qui en plus était perverse dans la mesure où elle faisait peser aux gens, à la société civile et à nos concitoyens, le poids de cette épidémie. Elle leur mettait sur les épaules le fait que les réanimations soient remplies, que les hôpitaux soient remplis, qui était vraiment une façon dégueulasse de faire, en fait, d'utiliser la peur et la culpabilité comme levier politique. Ça me devenait très, très clairement insupportable. Et en fait, plutôt que de rester tout seul derrière mon écran et derrière un mur de verre, comme il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont tout seuls derrière leur écran en train de pester et de se dire « Mais qu'est-ce que je peux faire pour arrêter ça ?» J'ai simplement appelé à l'aide. Je me suis mis en lien avec d'autres gens. Et en fait, ça a été la clé de retrouver du pouvoir, d'agir dans la matière et dans le réel. Ça a été de se mettre en lien avec d'autres gens. D'accord. Donc, finalement, vous pouvez imaginer qu'il y avait quatre choses qui nous étaient déniées. La capacité à comprendre la réalité. Ben, je me suis acharné avec d'autres à essayer de comprendre la réalité, de lire les articles scientifiques, de lire les résultats de la science, mais aussi d'aller voir dans le réel qu'est-ce qui se passe et donc de recueillir des témoignages. Actuellement, on a tout un groupe, tout un cercle qui est en charge de recueillir des témoignages de terrain des gens, des soignants, des restaurateurs, des artistes. Et c'est quasiment thérapeutique, hein. C'est-à-dire que les gens qui font ça, ils aident à aller mieux, ces gens-là, mais ils aident aussi à comprendre ce qui se passe pour de vrai. Et ce qui se passe pour de vrai, c'est que la plupart de la souffrance qu'il y a autour de nous aujourd'hui, elle n'est pas liée au coronavirus. Elle est liée aux décisions sanitaires qui sont prises. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles il va falloir remettre de la réalité. Donc ça, c'est la première chose. On ne pouvait plus comprendre la réalité. On ne pouvait plus dire. Vous n'aviez plus le droit de parler. Nous, on a créé un médium, comme Nexus s'est créé peut-être un jour, parce qu'il y avait nécessité de parler, d'avoir une voix. Donc on a créé un site internet, on a créé une chaîne YouTube, etc. Et puis après, il y avait l'impossibilité de se mettre en lien avec d'autres gens. Vous étiez derrière des masques, distanciés socialement, etc. Nous, on s'est dit au contraire. Il faut qu'on se mette en lien pour mieux comprendre, pour mieux parler et pour mieux agir. Et donc, on a décidé que toutes les personnes qui étaient toutes seules, d'essayer de les remettre avec des collectifs et de les mettre avec nous. Et puis ensuite, d'agir dans la matière. C'est la quatrième chose qu'on vous a empêché de faire, c'est d'agir. C'est plus facile aujourd'hui de créer une chaîne YouTube ou une chaîne Facebook que d'aller changer ce que fait un député. C'est quand même fou. Hein. Ouais, donc c'est une question technique sur le vaccin que tu poses, Caroline. Et effectivement, je pense qu'il faut en revenir à ça avant même de commencer à discuter de passeport vaccinal, d'une espèce de concaténation de vos droits sociaux avec l'idée même d'être vacciné, qui pour moi est un rapt en fait unilatéral du contrat social, hein, en fait simplement, hein, sur un motif technique et un motif sanitaire. Donc ça vaut le coup qu'on en rediscute effectivement parce que c'est à l'œuvre et c'est à l'œuvre depuis longtemps, hein. On voit déjà chez Foucault et Giorgio Agamben, enfin différents penseurs en fait de la technique et de la santé, l'apparition de ce qu'ils avaient appelé le biopouvoir, c'est-à-dire l'utilisation de la santé comme un élément de pouvoir et de pouvoir politique notamment et de restriction de vos libertés. Et donc, ça, c'est très, très bien décrit par Giorgio Agamben, la tentation d'un totalitarisme sanitaire, en fait, lié à des problématiques sanitaires. Et la notion même de passeport devrait nous dire ça. C'est quoi un passeport ? Normalement, c'est quelque chose qui permet de passer les ports, de passer les frontières. Mais ça veut dire qu'en fait, là, même pour aller chez votre boulanger, c'est une frontière. Ça veut dire qu'on a créé des frontières partout, en fait, à l'intérieur de votre espace vital et de votre espace social, et qu'il faudrait avoir un droit, un passeport spécial pour les passer. Mais en fait, il faut comprendre qu'on vient de vous enlever ce pouvoir-là. Vous l'aviez, vous pouvez sortir de chez vous et vous pouvez aller chez le boulanger. Et d'un coup, on vous a retiré ce pouvoir et on vous le revend avec une contrainte. Bon, donc on peut rentrer dans les détails de cette chose-là, mais je vais revenir sur le côté vaccinal proprement dit, parce que à quoi est-ce que c'est concaténé ? C'est concaténé à l'idée que le vaccin pourrait effectivement diminuer, permettrait de contrôler cette épidémie. Mais on ne peut pas contrôler une épidémie virale. C'est une idée très orgueilleuse de l'humain, ça, de penser qu'il pourrait arrêter la mer avec ses bras, qu'il pourrait arrêter le soleil de tourner, qu'il pourrait arrêter les virus de courir sur Terre. C'est un idéal programmatique de l'existence qui fait partie de ce qu'on appelle l'hubris, c'est-à-dire la folie des grandeurs, l'orgueil démesuré de l'humain qui pense que par la technique, il va réussir à domestiquer l'ensemble du monde dans lequel il vit. C'est une illusion. C'est une illusion propre à la technique, et c'est pas nouveau en fait. Ça, comme c'est déjà chez les Grecs, cette démesure, elle apparaît. On voit que Icare se fait des ailes pour essayer de toucher le soleil, etc. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? À chaque fois qu'il y a cette démesure, il y a ce qu'on appelle la némésis. L'hubris est puni par la némésis. La némésis, c'est la colère des dieux. Et donc, méfie, comme on dit à Marseille, hein, la colère des dieux va arriver. Parce que là, on est en train d'essayer de contrôler des choses qu'en fait, on ne peut pas contrôler.
Pour
La
vous,
seule
c'est
chose que vous
utopique de
pouvez faire.
pouvoir contrôler les virus?
Non, vous ne pouvez pas contrôler les virus, bien sûr que non. C'est des forces qui vous dépassent, en fait. Comment expliquer ça? Vous avez un premier aspect qui est l'idée, par exemple, sur la modélisation mathématique de l'épidémie. Vous voudriez tout comprendre de l'épidémie et comment elle se passe. Ben, la modélisation mathématique de Fergusson, puis en France de Cauchemez et Fontanet, elle s'est révélée systématiquement fausse. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont dit, c'est systématiquement révélé faux. Pourquoi? Parce que les modélisations mathématiques étaient fausses, c'est ça. Nous, on a un groupe de 15 mathématiciens qui s'appelle Matinfo, qui est au sein de Réinfocomit, qui démontre que Cauchemez et Fontanet sont des imposteurs. Donc là, je fais une attaque ad hominem, c'est pas bien. Mais qui
Les
démontre
modèles
que
sont faux.
le calcul était faux.
Faut bien
En
qu'on
tout
ait une
cas.
petite parenthèse sur ces modèles-là que se sont basées toutes les politiques sanitaires gouvernementales en Occident.
Exactement, exactement. Or, tous ces modèles sont faux. Et donc, c'est pour ça qu'il est très important d'aller les décaler, d'aller les sniper mathématiquement. Et là, donc, on a un groupe de 15 mathématiciens qui sont les débunkers des débunkers, quoi. Ce sont des gens qui font des mathématiques fondamentales, si vous voulez. Et qui disent ces modèles, c'est n'importe quoi, en fait. Ils sont basés sur des hypothèses qui sont toutes fausses, sur des axiomatiques qui sont absolument idiotes. Et en plus, la leçon du réel, c'est qu'ils se sont révélés faux. L'autre élément que je peux rajouter là-dessus, c'est que c'est chaque fois que l'humain pense qu'un système complexe peut être résumé en un système compliqué. C'est quoi un système compliqué? C'est quelque chose qui est très compliqué, où il y a plein de variables, mais vous les connaissez toutes. Et donc, on est capable, par exemple, de lancer une fusée sur la Lune. C'est compliqué, mais on est capable de le faire. Mais un système complexe, c'est quand vous n'avez pas toutes les variables. Et vous pensez que vous pourriez le résumer à un système compliqué. Mais ce n'est pas vrai, en fait. La réalité, c'est que ce n'est pas vrai. Et
Il nous manque
c'est
beaucoup
des.
de variables dans ce
Ouais, il y a
domaine.
trop de variables. Il y a des variables que vous ne pouvez pas prévoir. La réaction individuelle de la population, qu'est-ce qui se passe entre les gens, comment est-ce qu'en fait ils se traitent, quel a été le traitement en cause. Il y a trop de variables. Et tous les systèmes vivants sont en fait des systèmes complexes, qui ne sont pas résumables à des systèmes compliqués. Et donc, bizarrement, ça échappe toujours. Et c'est pour ça qu'en médecine, par exemple, quand on soigne quelqu'un, mais en fait, c'est un système complexe. On pense qu'on va avoir la solution, que ça ressemble à telle maladie, à tel truc qu'on a déjà traité. Puis dans les livres, c'est bien marqué comment on doit faire. Puis à la fin, ça ne marche pas. Ou au contraire, ça marche de manière complètement imprévue. Parce qu'en fait, c'était complexe. Et ça, c'est une erreur qui est très, très souvent faite sur les problématiques épidémiques. C'est de considérer qu'on serait capable de prédire la dynamique évolutive. Didier Raoult vous l'a dit, on ne peut rien prévoir. La réalité, c'est que les courbes épidémiques sont différentes entre tous les pays, par exemple. Vous n'avez pas une qui se ressemble et qui est exactement la même. Elles ne ressemblent pas aux courbes dont on avait l'habitude. Elles ont été influencées par les politiques sanitaires, mais
D'ailleurs, même en
pas.
France, au sein même de chaque département et de région, on a des
Exactement,
comportements
exactement.
différents de l'épidémie. C'est assez incroyable.
Ouais,
On
et
pense
donc
que tout est
vouloir avoir une
linéaire.
maille de compréhension qui serait mondiale, encore une fois, c'est un raccourci de la pensée complètement simpliste de gens qui n'acceptent pas que la réalité est en fait beaucoup plus chatoyante et nuancée
Alors justement, pour
qu'on
revenir
pense.
à la question de Caroline par rapport à ce vaccin, alors comment il fonctionne? Parce qu'on parle de ce vaccin ARN, BioNTech, bon, bah, où Pfizer est venu se greffer dessus, mais c'est le vaccin BioNTech. Comment ça fonctionne un vaccin ARN? On voit déjà ils ont déjà commencé à lancer la campagne de vaccination, mais ne savent pas si ça empêche la transmission du virus. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer avec vos connaissances qu'est-ce qui fait qu'il fonctionne ou pas? Et qu'est-ce qu'on sait ou pas sur ce vaccin?
Alors, Je peux essayer. Je vous renvoie d'emblée à un groupe qui s'appelle Cryogène. Quelqu'un qui s'appelle Christian Velot, je crois, qui fait une très bonne synthèse, en fait, à la fois écrite et sous la forme d'une vidéo sur les différents vaccins qui étaient en lice et qui sont toujours en lice dans la recherche sur le Covid-19. L'idée vaccinale est de créer une immunité humorale, c'est-à-dire liée à des anticorps qui vous défendent contre un pathogène, contre un agent infectieux, en vous soumettant à cet agent infectieux. Sauf que d'habitude, quand on injecte un vaccin à quelqu'un, on injecte une particule virale ou un petit morceau de virus ou un virus atténué. D'une manière ou d'une autre, quelque chose qui est de l'ordre des protéines. Et puis, on espère que soumis à cette protéine, votre corps va réagir et vos lymphocytes vont fabriquer des anticorps et garder cette mémoire des anticorps pour la prochaine fois où ils rencontreront une protéine virale. D'accord. Alors, la réalité, c'est que c'est déjà pas très efficace, probablement comme méthode, parce que souvent, vous faites des anticorps contre la protéine qui a été mise dans le vaccin, sauf que le virus, il a une tête qui est beaucoup plus complexe que ça. Mmh. Et donc, vous allez avoir une cible. Mais s'il se trouve que le virus a changé cette cible-là, mais n'a pas changé d'autres, eh ben, votre immunité va plus marcher par rapport à ce virus qui a un petit peu muté. Or, les virus passent leur temps à muter. Ils passent leur temps à changer de tête, justement, pour s'adapter à leur hôte. Donc, la technique vaccinale elle-même est quelque chose qui est discutable en termes d'efficacité, même si y a un dogme qui accourt au sein de la communauté scientifique. Et j'entends par dogme l'idée d'une idée qui n'est pas confrontée au réel. Mmh. Un dogme, par exemple, c'est celui de la Terre plate au moment de Galilée, quoi. Voilà, mmh. Si vous dites que la Terre est ronde, au bûcher, quoi. Là, c'est pareil.
Ce serait le dogme pasteurien.
Ouais. Là, si vous émettez des doutes sur le dogme pasteurien, ah bah, vous êtes vite au bûcher de la profession médicale. Vous êtes mis dans les antivax. Moi, je suis ni antivax ni provax. Je pense que c'est un outil comme un autre et qu'il faut regarder s'il marche, s'il ne marche pas, quels sont ses bénéfices, ses risques, et puis à la fin, trancher s'il faut le faire ou pas le faire. Et surtout pas le mélanger avec des problématiques sociales ou politiques, quoi, comme on l'a fait avec cette idée de passeport vaccinal. Donc ça, c'est l'idée initiale. Sauf que ça coûte cher de faire cette petite particule virale ou protéique qui va, et que c'est compliqué, ça prend du temps. Et comme je vous ai dit, en plus, la cible, elle va beaucoup changer. Donc il y a des gens qui ont eu une idée très intéressante en termes de pirouette intellectuelle. C'est peut-être le futur de la vaccination. Hein. Moi, je n'exclus pas ça. Ça peut être très intéressant. C'est l'idée de que plutôt que de vous donner la protéine elle-même, de vous donner le message qui code pour la protéine, c'est-à-dire l'ARN ou l'ADN. Là, on va parler de l'ARN pour le moment. L'ADN, c'est encore d'autres types de vaccins où l'ADN est inclus dans un adénovirus, mais voilà, c'est encore autre chose. Et ça, c'est plutôt le vaccin russe, le vaccin chinois, qui sont assez intéressants en vrai, mais pour lesquels je manque de data pour vous dire s'ils sont efficaces et sûrs. Ceux où on a le plus de data, vous l'avez dit, c'est Pfizer-BioNTech et Moderna. Et ces data, c'est les essais de phase 3, les essais de phase 2, les essais de phase 1 qui ont été menés par l'industrie. Donc là, c'est pareil, vous devriez être prudent quand c'est la personne qui vous vend le produit.
Oui. Quand on dit qu'on a des data, ça vient de chez eux, quoi.
Ouais, il y a des chances que ce qu'ils vous disent pour vous le vendre, c'est que c'est génial, quoi, que ça n'a pas d'effet secondaire. Donc le simple bon sens vous dit, ok, je vais écouter le battleur, mais je vais aussi écouter d'autres choses, quoi. Quand vous allez acheter un n'importe quoi sur Internet aujourd'hui, vous regardez ce qu'a dit l'argumentaire commercial, puis vous allez essayer de trouver s'il y a des sites de gens qui l'ont utilisé. Puis dans ces sites de gens qui l'ont utilisé, vous allez regarder si c'est quand même pas l'industrie qui les a payés pour le dire. Et puis vous allez regarder si c'est vraiment des vrais gens dans un blog, puis avoir leur avis sur la question, puis leur note, une étoile, deux étoiles, cinq étoiles. Puis avant de vous dire, tiens, je vais acheter tel modèle ou tel modèle. Voilà, ce serait le moins qu'on puisse faire pour le vaccin, on va dire, au minimum, quoi. Bah, on fait même pas ça, en fait. Là, on fait juste confiance de manière complètement aveugle au punchline marketing des laboratoires. Donc ça va pas. Ces punchline marketing, en plus, elles posent question, parce que un essai de phase 3, c'est un essai d'efficacité, mais le recul, il est sur 3 mois. C'est-à-dire, vous savez pas au-delà de 3 mois si ça sert à quelque chose. Attendez, c'est-à-dire que le vaccin, il faudrait le refaire tous les 3 mois.
Normalement, un vaccin, c'est des années, on est d'accord. Avant,
pour le moment, vous n'en savez rien. Ouais, le recul, il faut avoir plusieurs années. C'est pour ça que d'habitude, ça prend 8-10 ans de recul pour avoir l'idée si ça marche, un vaccin ou pas. C'est que pour le moment, vous n'avez aucune idée si au-delà de 3 mois, ça sert à quelque chose ou pas. L'autre chose, c'est que les études, elles sont designées Elles sont dessinées, si vous voulez, pour permettre de voir une diminution des cas mild to severe, c'est-à-dire des cas, des formes symptomatiques mais modérées et des formes sévères. Mais les formes modérées et symptomatiques, par exemple, ce qui compte dedans, c'est d'avoir une toux et un test positif, ça compte dedans.
Ah
Mais on
oui.
s'en fiche d'avoir ça. C'est pas grave. On n'a pas besoin d'un vaccin. Votre immunité va faire le job et vous allez guérir et il n'y aura pas de souci. Donc, diminuer ces formes-là, ça n'a pas vraiment d'intérêt, même pour vous, en fait. Pas sûr que ça ait
Oui.
un intérêt quelconque, hein, au niveau égoïste, on va dire simplement. Diminuer les formes sévères, ça serait peut-être intéressant. Et en plus, en essayant de le cibler sur les gens à risque, ce serait peut-être très intéressant, que ceux-là qui font des formes sévères. Sauf que là, c'est pareil, vous manquez de data, manquez de données bien claires pour savoir est-ce que ça diminue vraiment les décès? Ça, vous n'en savez rien. Est-ce que ça diminue le passage en réanimation? Bah, ce n'est pas si clair en fait.
D'accord.
Donc, en termes d'efficacité, ce n'est pas clair. Ensuite, vous diriez, non, mais ce n'est pas pour moi que je le fais, c'est pour diminuer la transmission aux autres. L'argument a été énormément repris dans les médias, de
Exact.
dire que ce n'est pas une vaccination égoïste, c'est une vaccination altruiste. Mais les gens qui ont fait les essais eux-mêmes vous disent, les essais ne sont pas designés pour montrer qu'on diminue la transmissibilité.
Tout à fait.
Donc, vous n'en savez rien sur le fait que ça diminue ou non la transmission, vous ne savez pas.
Donc, on est
Simplement,
d'accord pour dire qu'officiellement, on ne sait pas grand-chose sur ce
exactement.
vaccin.
Et vous avez un rapport HAS de fin novembre. Vous en avez deux en fait en même temps qui sont publiés en même temps. Et c'est très drôle, c'est le et en même temps macronien qui vous permet de mentir éhontément. Vous avez un rapport qui dit bah, en fait, on ne sait pas si c'est efficace, on ne sait pas si ça diminue la transmission, on ne sait pas vraiment rien en fait. On ne connaît pas vraiment les effets secondaires et c'est un rapport assez honnête en fait. Puis dans le même temps, il y a un rapport qui est produit quasiment le même jour qui dit, ouais, mais il faut augmenter l'acceptabilité de la vaccination auprès de la population.
Exact,
Je
j'ai vu
comprends pas.
ça.
Pourquoi vous faites ça?
Oui,
Mais
on se
donc.
rend dans la fabrique d'un consentement. On est d'accord? Ok. La question qui se pose aussi, parce qu'on a eu, nous, un rapport officieux. Voilà, qui a été fourni justement par Pfizer à la FDA, donc qui date de début décembre, qu'on a analysé, qui devrait sortir. Donc c'est sur une cohorte de 44 000 personnes. Et ils posent eux-mêmes la question. Ils le disent très bien avec des remarques vagues. Nous n'avons pas eu le temps d'évaluer les risques à long terme, hein, étant donné la courte période. Donc le coupable avoue lui-même qu'il n'est pas du tout au fait des tenants et des aboutissants de cette thérapie génique, puisque comme tu nous l'expliquais très bien, c'est un vaccin qui va nous permettre, nous, pas moi, hein, la victime de la thérapie génique, de produire elle-même ce virus. Et on n'est absolument pas à l'abri, en fait, que ces petits morceaux d'ARN passent déjà dans l'ADN. Donc ça pourrait modifier l'ADN à nos descendants. Ça, c'est quand même un point important. Mais aussi, on ne sait pas ce qui va en être. Est-ce que les gens ne seront pas des usines à production de virus, donc le virus muterait? Et ce qui permettrait, en fait, de transmettre à la population un virus qui aurait muté, qui serait d'autant plus virulent. Donc, pas uniquement à la personne qui se serait décidée d'être vaccinée, pensant bien faire, se protéger et protéger les autres, mais on aurait un effet totalement inverse. Et c'est quand même ce qui est sous-entendu. Donc, ça, c'est la première question. Et puis après, on reviendra sur le fait qu'on a un peu le recul maintenant pour savoir qu'il y a des chocs anaphylactiques importants qui sont réalisés suite à la vaccination, dont on voit les gens littéralement tomber et on peut voir, il y a eu des documents qui ont circulé de l'ARS et compagnie qui engageaient les EHPAD à acheter de l'adrénaline justement pour éviter ce choc qui pourrait encourir avec une mort sûre et certaine, surtout chez des personnes âgées. Donc ça, ce sont deux questions qui me semblent tout de même extrêmement importantes de lever.
Ouais, alors, ta première question, elle correspond à essayer de mieux comprendre le mécanisme. Effectivement, les petits morceaux d'ARN, donc de messages, ils rentrent dans la cellule et normalement, ils sont traduits en protéines, quoi. Et normalement, ça reste comme ça. La première chose, c'est que pour que ces morceaux d'ARN soient stables dans le corps et qu'ils ne soient pas dégradés tout de suite et stables dans l'environnement, ils sont mis dans des nanoparticules lipidiques. Ils sont entourés de petits films de graisse, quoi, si vous voulez. Acuitas Therapeutics, qui est la firme qui fabrique ces nanoparticules thérapeutiques, enfin lipidiques, a dit elle-même qu'ils n'avaient pas eu le temps de faire les essais de stabilité suffisants Et donc, que ça allait beaucoup trop vite, en fait, et que donc l'essai de phase 3 lui-même serait encore une sorte d'essai de stabilité, quoi. Bon.
C'est énorme.
Donc, ça va pas, quoi. La deuxième chose, c'est que une fois que ça rentre dans la cellule, effectivement, est-ce qu'il y a un risque que ça s'intègre dans le génome ? J'avais parlé de ce risque-là, et les fact-checkers de l'AFP ont dit non, c'est pas vrai. D'ailleurs, il y a un médecin qui dit que c'est pas vrai. C'est ça, leur fact-checking, quoi. Waouh ! Alors, moi, je peux vous donner quelques arguments pour dire qu'il y a un risque. Ce risque, il est faible, mais il existe. C'est le risque de rétrotranscription et d'intégration au génome. Et notamment, il existe quand il y a les enzymes qui permettent de rétrotranscrire et d'intégrer, ce qu'on appelle les rétrotranscriptases et les intégrases. Or, on sait qu'il y a des gens qui ont ces enzymes-là dans leur corps. Parce que les gens qui sont porteurs de rétrovirus, comme le HIV ou le HTLV1, donc les gens qui sont porteurs du HIV et du HTLV1, ils ont une rétrotranscriptase et une intégrase. Donc ceux-là, moi je serais prudent, quoi. En tout cas, la première chose à faire serait d'être prudent, parce qu'effectivement, je risque de l'intégrer dans mon matériel génétique à moi.
Ce serait quoi l'autre conséquence, juste pour bien comprendre, si ça s'intègre au matériel génétique dans notre corps,
alors il faut que l'ARN soit rétrotranscrit en ADN, qui devienne de l'ADN. Donc ça, c'est le rôle de la rétrotranscriptase. Elle rétrotranscrit en ADN. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que cet ADN il traîne sous la forme d'un petit brin, il ne rentre pas forcément dans notre double hélice. Il faut une intégrase, quelque chose qui ouvre les brins de notre hélice et qui permette de le mettre dedans. Ça, c'est l'intégrase.
Il se trouve qu'il y a des gens... notre ADN, en fait. On serait des OGM.
Exactement. On serait des OGM. Mais il se trouve qu'on est déjà, quelque part, des OGM, puisque dans notre génome, il y a déjà 8% de notre génome. Ce sont des rétrovirus qui se sont intégrés. Mais pour le meilleur, et en fonction des lois de l'évolution mendélienne. Si c'est arrivé, c'était même probablement utile, puisqu'une partie de ces rétrovirus, qu'on appelle des rétrotransposons, il y a certains qui pensent que c'est ça qui nous a permis de passer à la placentation, d'avoir cette chose si particulière qui s'appelle la syncytine, une protéine qui permet la fusion en fait, entre le placenta et la maman, qui permet aussi la fusion entre les gamètes mâles et femelles, spermatozoïdes et ovules et ovocytes. Donc, on sait que ça arrive et on sait que ça existe. Et on sait qu'il y a même d'autres mécanismes moléculaires qui ne passent pas par l'intégrase et la rétrotranscriptase qui permettent à de l'ARN de s'intégrer dans notre génome. Donc, oui, il y a un risque. Bien sûr qu'il y a un risque. Et en plus, vous n'avez aucun recul sur ces technologies. Elles n'ont jamais été utilisées autrement que dans des thérapeutiques antitumorales dans certains cancers. Donc, pour le moment, vous n'en savez absolument rien, quoi.
L'autre chose, c'est que... Selon vous, c'est des questions qui sont écartées d'emblée du débat ?
Ouais. On fait comme si ça n'existait pas, alors que c'est des questions absolument fondamentales. On ne doit pas faire semblant que ça n'existe pas. Le minimum, c'est de se poser la question. Et le minimum en médecine, normalement, le premier principe que vous apprenez en première année, quoi, et qu'on va vous répéter ad nauseam pendant tout le temps de vos études, c'est d'abord ne pas nuire. Primum non nocere. Ne pas mettre en route un traitement dont je pourrais avoir un doute qu'il soit nuisible. Dans ce cas-là, je préfère ne rien faire. Donc, primum non nocere. C'est vraiment le principe de base, hein. Surtout quand vous êtes face à une épidémie virale où la mortalité est très faible, vous êtes à 0,05% de mortalité, on en a parlé, même plus bas dans certains pays, ça veut dire que votre curseur de sécurité doit être mis au plus haut, puisque la plupart des gens, en fait, vont faire des formes asymptomatiques, vont pas faire la maladie, vont faire des formes bénignes, et il y en a très peu qui feront des formes graves ou qui décéderont de cette maladie.
Alors actuellement, on est plutôt à 0,09% en France, bon, ça c'est les chiffres officiels, mais voilà, pour... Je sais qu'il y a gens qui vont tiquer sur les chiffres.
Oui, ok, ça va.
Ça reste assez raisonnable. 0,09, c'est quand même assez…
En termes de létalité aussi, ça n'exclut pas le fait que pour ceux à qui ça arrive, c'est très grave. Je veux dire, voilà, il faut aussi de l'empathie pour ceux à qui il arrive un Covid long ou qui sont hospitalisés.
C'est bien de remettre les chiffres en proportion.
Exactement, et remettre le risque et le bénéfice dans la bonne proportion. Vous n'allez pas… vacciner des gens avec un vaccin qui a 5 ou 6% d'effets secondaires graves, comme par exemple celui de Pfizer, un autre vaccin, j'ai un trou, donc je ne veux pas vous dire de bêtises, mais en gros, il y a un des vaccins qui est adénovirus qui a des effets secondaires, c'est très étonnant, quoi, sur une étude qui poule des essais de phase 3, de phase 2, de phase 1, sont à plus de 5% d'effets secondaires graves.
Il y a eu le CDC qui a publié aussi il y a quelques jours.
Exactement.
Une revue, c'est, on arrive à 2,8% de remontée d'effets secondaires sur un pool de plus de 100 000 personnes vaccinées en
exactement.
Une semaine.
Et c'est des effets secondaires pas anodins, puisque c'est des effets secondaires qui impactent votre activité quotidienne, qui font que vous allez devoir rester sous traitement éventuellement, que vous nécessitez un soin médical et que vous ne pouvez pas faire votre activité professionnelle habituelle. Donc, ce n'est pas juste avoir 38 pendant deux heures. Hein. C'est,
Parenthèse, c'est-à-dire qu'à l'échelle de la population française, ça serait 1 848 000 Français qui pourraient être atteints d'effets secondaires non négligeables.
C'est ça. Exactement. Ouais. Et puis qui, en plus, sont diagnostiqués en 3 semaines. C'est-à-dire, attendez, les effets secondaires des vaccins, ce n'est pas en 3 semaines qu'on voit. Hein. Sur le Pandemrix, qui est le vaccin pour le H1N1, on a mis jusqu'à 2 ans à voir certaines formes de narcolepsie ou d'étalepsie. Donc, si vous avez déjà à ce niveau-là d'effets secondaires en 3 semaines, on peut espérer qu'après ça se tasse, mais on a tout lieu de penser qu'il va y en avoir d'autres. Quoi. Mmh. Et ça veut dire que vous n'êtes pas du tout au bon niveau de sécurité par rapport à la gravité de la maladie. Ça a fait dire à Wolfgang Vodarg et à son collègue qui était chez Pfizer, qui ont mis en route, qui sont deux médecins qui travaillent chez Pfizer, qui ont mis en route un moratoire sur la recherche sur ce type de vaccin en disant non, c'est beaucoup trop dangereux. Et il citait cette problématique de la syncytine dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'idée que Spike, la protéine qui est produite par l'ARN qu'on vous injecte, qui est la protéine d'enveloppe du virus qui permet, de, une fois qu'elle est clivée, de rentrer dans le récepteur ACE2 et de rentrer dans que le virus rentre dans la cellule. Donc ça, c'est la cible, en gros, de la vaccination, c'est de créer cette protéine Spike pour que vous fassiez des anticorps contre Spike. Sauf que Spike a beaucoup d'homologie de séquence avec la syncytine, justement. Ah mince! Si jamais vous faites des anticorps contre Spike et que vous faites au passage des anticorps contre la syncytine, vous risqueriez d'être infertile. Ça, vous allez le voir au bout de combien de temps? Parce que vous n'allez pas le voir dans les 3 semaines. Hein. Il va falloir un petit moment avant de se rendre compte que les gens ils sont infertiles et de comprendre pourquoi ils sont infertiles et de le relier à la vaccination, etc. Donc, ce risque-là, c'est pareil. Vous allez le faire courir à des femmes en âge de procréer, à des hommes en âge de procréer. Ça agit aussi sur le sperme masculin et la rencontre entre les gamètes dont je vous ai parlé. Donc, c'est même pas que chez les femmes.
Wow. C'est incroyable. On n'entend nulle part cette information. En tout cas, je la découvre.
Vous allez sur la pétition de Wolfgang Vodarg, etc., d'accord, qui a été envoyée à la Commission européenne, à la Commission européenne du médicament, pour dire « Temps mort, les gars, on va se calmer, en fait. » Il soulève cette hypothèse-là.
Oui. Donc, en fait, deux anciens médecins de chez Pfizer qui invitent, comme tu dis, à un moratoire et un arrêt total de toutes les recherches.
Guidon et Vodarg.
On
est sur un niveau d'effet secondaire et un bénéfice potentiel qui fait que en fait, c'est une thérapeutique nulle et non avenue, en l'occurrence, dans cette maladie. D'autant plus que si on parle d'efficacité, on doit en parler face aux bons comparateurs. C'est-à-dire, si on compare le vaccin versus paracétamol, bonne chance, on se revoit dans 2 semaines quand vous serez en train de vous étouffer, ce n'est pas correct parce qu'on a d'autres logiques thérapeutiques dans cette maladie qui peuvent éventuellement apporter de gros bénéfices.
Alors, comme quoi, par exemple?
Alors, on va en parler. Mais l'IHU de Marseille montre une létalité entre 0,05% et 1%, on va dire. Une létalité, c'est le nombre de morts sur le nombre de diagnostics positifs. C'est-à-dire de tests positifs à SARS-CoV-2. Quand dans le même temps, à Marseille, on est plutôt à 1,3, je crois, de létalité, et quand sur l'ensemble de la France, on est plutôt à 2,3 de létalité. On l'ouvre ce dossier ou on ne l'ouvre pas? Quand est-ce qu'on va regarder pourquoi l'IHU de Marseille a une létalité qui est environ 4 fois moindre que celle de l'ensemble de la France? Ça veut bien dire qu'ils font quelque chose un peu différemment qui a l'air de fonctionner. Qu'est-ce qu'ils font différemment? On a différentes stratégies, mais vous savez très bien que l'immunité, et tous les médecins le savent normalement et peuvent le dire à leurs patients, ça a été même dit par le syndicat de la médecine du sport, c'est que faire de l'activité du physique, c'est bon pour vous. Vous avez besoin de sortir, de courir, de vous aérer. Donc, si vous confinez les gens, vous les rendez malades.
Vous baissez le système immunitaire, en fait.
Besoin de maintenir votre niveau immunitaire par le fait d'avoir une activité physique régulière. Votre niveau immunitaire, il est dépendant de votre niveau de stress. On le sait très bien quand on fait une interrogation surprise à des élèves dans certaines recherches rigolotes, ils font plus de grippe ou d'épisodes virales dans les 2-3 semaines qui suivent que ceux qui n'ont pas eu d'interro surprise. Juste par cet à-coup de stress-là, statistiquement.
Et d'ailleurs, une étude de l'INSERM qui le prouve. Ouais, relayer cette information.
Ce que je vous dis, c'est qu'il y a plein d'études qui démontrent bien que le stress est un facteur majeur d'infection. Et donc, vous ne devriez pas maintenir les gens dans le stress et la peur permanente en leur serinant tous les jours le nombre de morts avec un croque-mort qui vient vous dire combien il y a eu de morts tous les jours et qui en plus dit des chiffres faux qui ne sont jamais fact-checkés, qui vous parle de nombre de cas ou de contaminés alors qu'on parle de tests positifs à SARS-CoV-2. On y reviendra peut-être, mais ce n'est pas la même chose. Un test positif qu'un cas, ce n'est pas vrai, quoi. 86% des gens qui ont un test positif à SARS-CoV-2 sont asymptomatiques. Ils n'ont juste même pas vu la maladie.
C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse avoir une quantification de la charge virale à ce moment-là.
Ouais, au moins déjà. Et puis même cette charge virale-là, si vous avez le CT, nous on appelle ça le cycle threshold sur les PCR, c'est intéressant. Hein. Nous, on s'en sert. Par exemple, moi, le test, il m'est utile dans ma pratique quotidienne de médecin. Mais par contre, ce n'est pas du tout un test qui permet un dépistage en population générale.
Alors, ce fameux CT, d'ailleurs, qu'on en a souvent parlé, il a été apparemment très, 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 très surélevé par rapport à ce qu'il faudrait mettre en termes de seuil de CT. On a du mal à comprendre à quoi ça correspond, mais on a vu qu'autour de 20-25, c'était un CT acceptable. Certains labos, apparemment, en France, étaient montés jusqu'à 40, 45, 50. On a nous-mêmes, à Nexus, essayé de demander à plusieurs laboratoires quel était le CT qu'ils appliquaient pour leurs tests. On n'a eu aucune réponse.
Ouais. Il n'y a que l'IHU, hein. Enfin, c'est pas que, mais c'est l'IHU et à 35 CT, quoi, a déterminé que c'était pour lui le bon ratio. Mais surtout, le test, il ne doit pas exister comme ça, sans rien, tout seul. Le test, c'est une aide au médecin à aller affiner sa présomption diagnostique. Ça veut dire que ça commence par un médecin et un syndrome. Ce n'est pas dans la population tout venant, allez vous faire tester, vous aurez le droit d'aller à la pistoche ou de partir en vacances et tout.
C'est aucun sens. Quoi.
C'est faire reposer sur ce test des choses qui ne doivent pas reposer dessus. Parce que quand vous avez un test positif ou négatif, vous ne savez pas si vous êtes transmetteur ou pas, par exemple. Il y a une étude sur 10 millions de Chinois qui est sortie il n'y a pas très longtemps dans Nature qui montre qu'il n'y a pas de transmission asymptomatique et pas de transmission présymptomatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire les gens qui n'ont pas le nez qui coule, qui n'ont pas de la fièvre, qui ne toussent pas, qui ne sont pas fatigués, qui ont des courbatures, qui n'ont pas la diarrhée, qui n'ont pas une anosmie, en gros, ils ne transmettent pas le virus. Et pareil, les gens qui ont ce syndrome grippal ou de maladie virale, on va dire, remonter les cas contacts d'il y a 3 semaines ou d'il y a 2 semaines en essayant de tracer tout le monde par l'ARS, ça n'a aucun sens. Les gens ne sont pas transmetteurs en pré-symptomatique. Ça veut dire avant d'avoir été symptomatique, ils ne transmettaient pas la maladie. C'est ce que démontre cette étude-là. Donc, il y a un moment, il faut arrêter le délire sur les masques et les cas contacts, en fait. On est dans un délire collectif. Un truc qui n'a aucun sens et aucune justification. Mais
justement, là, ils viennent de déployer, quasiment, on les voit dans les grandes villes, presque dans chaque grande rue, des tentes de tests rapides antigéniques. Le Canard enchaîné du 23 décembre balançait l'information comme quoi ces tests étaient complètement pas fiables, qu'ils produisaient beaucoup de faux positifs. Donc, on est vraiment dans une illusion de contrôle et de tests, finalement.
Ouais, dans un mensonge collectif, parce qu'à partir du moment où vous commencez à raconter raconter la maladie par le nombre de tests, à finalement corréler les mesures sanitaires au nombre de tests positifs, tant qu'on ne sera pas en dessous de 5000 tests positifs par jour, on ne fera pas ci, on ne fera pas ça, on ne réouvrira pas les restaurants, vous êtes dans un mensonge d'État qui est pour moi délirant, en fait. Hein. Vous êtes en train d'instrumentaliser la science de manière à côté de la plaque, en fait, et sans aucun impact réel sur l'épidémie. Hein. C'est ça aussi qu'il faut regarder. Est-ce qu'à la limite, vous diriez, ça permettrait de diminuer la surcharge sur les hôpitaux, les réa. Mais sauf que non, l'histoire des masques n'a rien changé à l'évolution en réanimation. Les masques pour l'enfant, les enfants ne sont pas vecteurs, ils ne sont pas contaminants, ils ne sont pas malades. Les masques dans la rue, on sait très bien que c'est une imposture, ça ne sert à rien. Et c'est démontré scientifiquement. L'étude danoise Danmask démontre que ça n'a aucun impact en fait sur l'évolution épidémique.
D'ailleurs, ça pourrait même avoir l'effet contraire.
Exactement, ça augmenterait plutôt d'autres pathologies. Et par contre, il y a des effets secondaires. Vous avez raison. Oh, excusez-moi, on dérive, du coup, on parle de plein de
choses. C'est vrai. Non, mais le sujet est vaste. C'est vrai que vous avez été l'un des seuls, en tout cas parmi
Je reviens sur les vaccins simplement. Pour finir sur le vaccin, vous m'aviez demandé, mais quelle serait une stratégie alternative ? Je vous ai parlé du fait de faire du sport, de ne pas être stressé, d'avoir du lien social. nous sommes des êtres de lien, nous sommes des êtres de relation. Les humains, ils aiment bien voir d'autres humains, en fait, ça leur fait du bien. Et donc, on ne doit pas avoir de distanciation sociale. Une distanciation physique, peut-être, pourquoi pas, avec certaines personnes à risque, on peut discuter, mais une distanciation sociale, sûrement pas. Au contraire, on doit se rencontrer. Nous sommes profondément des êtres d'amour et de partage. Ensuite, les thérapeutiques. Quelqu'un qui arrive, qui a un syndrome, le médecin prescrit un test et pas une ARS, pas un test systématique dans un barnum au coin du boulevard. Non, non, un test prescrit par un médecin avec un certain CT qui est bien déterminé et puis des médecins qui savent interpréter ces tests. Qui dit, bah, ça y est, vous êtes OK, vous êtes porteur du SARS-CoV-2, vous êtes malade parce que vous avez un syndrome. Donc, vous êtes malade. On va dépister si vous êtes à risque de faire une forme grave. Vous êtes hypertendu, diabétique, obèse, vous êtes avec un cancer évolutif, vous êtes avec une hémopathie, un lymphome, une leucémie, vous êtes avec plus de 80 ans, vous avez peur, vous avez reçu un certain nombre de vaccins dans les mois précédents, d'accord, de Bergame notamment. Vous êtes une personne à risque. Très bien. On va aller voir si déjà vous faites des problèmes de coagulation. Donc on va faire un petit dosage dans le sang, les D-dimères et le TCA, qui regardent est-ce que vous êtes à risque de faire des petits caillots dans les vaisseaux, parce que c'est une des façons de mourir de cette maladie du Covid-19, c'est de faire des caillots dans les vaisseaux. Et il y a un traitement simple qui est de faire des piqûres d'anticoagulants, comme après que vous ayez été opéré de quelque chose, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous avez des piqûres d'anticoagulants faites par l'infirmière une fois par jour, et puis ça évite le problème. Bon, mais ça, c'est très simple à faire. Actuellement, on dit aux gens, bonne chance, paracétamol, ciao, revenez quand vous ne serez pas bien. Ben, c'est pas bien. Parce que là, on peut éviter toute une morbidité et une mortalité juste en faisant ça. L'autre chose, c'est les gens, vous n'avez pas besoin de les envoyer à l'hôpital tout de suite. S'ils ne sont pas trop mal, ils vont rester à la maison. Mais vous allez leur mettre un traitement antiviral. Traitement antiviral, il y a un moment, il faut que les Nathan Pfeiffer-Schmadja et tous les gens, les no-fake meds, etc., les gens qui prétendent donner des leçons de science aux autres, aillent voir les études pour de vrai, quoi. Et donc là, vous pouvez aller sur C19 Study et d'autres, mais vous avez une méta-analyse sur l'ivermectine qui est parue hier, le 29 décembre, qui est une méta-analyse commanditée par l'Organisation mondiale de la santé, par l'Université de Liverpool, qui poule, je crois, 28 études randomisées et qui montre que l'ivermectine est utile en prophylaxie. En prophylaxie, ça veut dire alors même que vous n'êtes pas malade. Donc, on est plutôt sur éviter que les gens en EHPAD aient une maladie grave, hein. En prophylaxie primaire, en prophylaxie secondaire, c'est-à-dire une fois que vous avez eu un contact avec un cas contact. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent pre-exposure en anglais. Donc c'est en prévention, si vous voulez, que c'est utile en thérapeutique précoce, c'est-à-dire on vient de faire le diagnostic, vous avez un test positif et vous avez un syndrome. OK, on vous met ce traitement, ça va diminuer les formes graves de manière très importante de plus de 40%. Et c'est utile même dans les formes tardives, mais moins utile. Mais attendez, quand est-ce qu'on en parle, ça, dans les médias, là, vous, les gars? Parce que l'ivermectine, c'est depuis le mois de mars-avril qu'on sait que c'est une molécule candidate. Sauf qu'effectivement, ça ne rapporte rien à personne, qu'il n'y a pas de modèle économique pour le rentabiliser et que ça ne vaut pas cher. Et donc,
c'est un
ça
médicament qui existe déjà depuis longtemps?
Oui, depuis mars-avril, on en parle de l'ivermectine.
Mais il sert à quoi, à la base, ce médicament?
La méta-analyse dont je vous parle, elle est sortie hier.
Parce que le professeur Perron nous en a parlé il y a quelques jours de cette fameuse molécule, justement en disant que c'était un médicament qui est utilisé depuis des années dans d'autres pathologies.
C'est un médicament un peu contre comme la gale, normalement. D'accord. Un médicament contre la gale. Il y a une certaine toxicité, je crois, hépatique qu'il faut aller vérifier. Hein. Mais donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas en automédication, c'est avec son médecin, etc. Bien sûr. Mais c'est une molécule candidate probablement très intéressante. Et là, il y a plein de données, si vous voulez. C'est-à-dire, là, je me permets de le dire parce que, si vous voulez, en termes de data scientifique, je veux dire, le Conseil de l'Ordre n'a rien à dire à ce que je suis en train de dire. C'est juste les gens qui font semblant de ne pas voir. Donc, vous avez l'ivermectine. Vous avez la vitamine D et le zinc. Mais ça, ce n'est pas nouveau. Ça fait hyper longtemps que dans les infections virales et même les infections bactériennes, on sait que les déficits en vitamine D et les déficits en zinc, c'est les gens qui font les formes les plus graves. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé sur le Covid-19? On a retrouvé que les gens qui avaient un déficit en zinc et en vitamine D, c'était ceux qui faisaient les formes les plus graves. Et qui est-ce qui a des déficits en vitamine D? Presque 80% de la population en France. Donc, on a intérêt à se recharger en vitamine D. On ne prend pas assez de soleil. Parce que c'est une des façons de faire de la vitamine D, c'est l'exposition au soleil. Oui.
On peut supplémenter assez facilement, d'ailleurs, les médecins de ville.
Ça se supplémente très facilement. C'est un médicament over the counter. C'est un c'est pas compliqué, quoi. Ça coûte vraiment rien, en fait, de déjà le tester dans votre sang. Donc, à partir du moment où le généraliste trouve que vous avez SARS-CoV-2, vous êtes symptomatique, ben, il va doser ça dans votre sang et puis il va vous recharger si vous en avez besoin.
Est-ce qu'on peut faire ça en prophylaxie, selon vous? On aurait pu faire une grande campagne.
Alors, je ne suis pas censé donner des conseils médicaux comme ça, sans consultation, vous savez, monsieur Daoud. Mais je crois qu'il faut que vous en parliez à votre médecin, à l'évidence.
L'aurait fait de bon ton de proposer aux Français d'aller se faire doser chez leur médecin et de, en tout cas, essayer de se renforcer au niveau de leur vitamine D et de voir s'ils avaient un des carences, on est d'accord?
Je pense que de toute manière, c'est un conseil de bon sens que d'aller voir si vous avez des problèmes carentiels au niveau nutritionnel. On a de très nombreux problèmes micronutritionnels qui sont apparus avec l'appauvrissement progressif de l'agroalimentaire. Une pomme aujourd'hui a les capacités nutritionnelles de… 100 pommes aujourd'hui, c'est une pomme de 1900, si vous voulez. On a appauvri progressivement la charge en nutriments d'ordre de grandeur. Il faut aller vérifier, les fact-checkers s'en chargeront. Mais globalement, les capacités nutritionnelles des aliments qu'on mange sont bien moindres qu'avant. Et donc, on est carencé en beaucoup de choses.
J'invite nos spectateurs à éventuellement se tourner vers ce documentaire Maltraité qui parle de toutes
les choses. Voilà,
exactement. L'art de la vie, bien sûr. Et pourquoi pas l'argent colloïdal, ça fonctionne très bien.
Je pense qu'il faut... Je peux rester en lien, c'est-à-dire même quand on n'est pas d'accord, être en lien. Et donc, exactement, aller voir son généraliste et lui dire, voilà, moi, je vois tout ça, en fait, dans les réseaux sociaux, j'ai le docteur Fouché, machin, qui me parle de ces choses-là. Et est-ce qu'on peut en parler ensemble? Est-ce qu'on peut ouvrir le dialogue? Et vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de médecins qui sont prolétarisés, en fait, c'est-à-dire qui ont perdu les savoirs et les savoir-faire. Vous allez vous rendre compte qu'un certain nombre de médecins sont payé par le système. Aujourd'hui, un médecin touche 5 euros et des brouettes s'il vous vaccine. C'est amélie.fr, vous pouvez aller voir sur le
site. D'ailleurs, une consultation, on rappelle,
vous avez une consultation COVID. Une prime si vous vaccinez contre le COVID.
C'est ça.
L'autre chose, c'est que normalement, les médecins sont responsables pénalement et civilement de ce qu'ils font, de leur activité médicale. Et là, le gouvernement leur a dit non, mais pour les vaccins, c'est bon, vous ne serez même pas responsable. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Revenir sur la CNIL, en effet, c'est quelque chose qui est tombé très récemment et c'est de façon opposée ce qui va se jouer en Espagne où il y aura un dossier de toutes les personnes qui ont accepté ou celles qui refusent d'être vaccinées. Qu'est-ce qu'il en est de la CNIL? Parce qu'on assiste, les enjeux de cette crise sont aussi le traçage de la population, forcé de le
constater. Oui, alors Caroline, si tu me fais partir là-dessus, je vais finir un peu plus vite sur la thérapeutique alternative. Donc, on a dit ivermectine, zinc, vitamine D, vitamine C, Zitromax, ça c'est tout le groupe de Claude Escarguel, qui est un médecin biologiste, et de son fils Bruno Escarguel, qui est pneumologue, avec tout un groupe de médecins qui ont largement démontré que le Zitromax, l'azithromycine, donc qui est un antibiotique macrolide, est utile dans cette infection. Et puis enfin, l'hydroxychloroquine, on est obligé d'en parler, quoi qu'il en coûte à YouTube. Censurerez si
on se fait censurer systématiquement, d'ailleurs on vous le redit même sur Facebook, dès que le mot Covid-19 apparaît dans une publication, impossible de la partager facilement et de la booster, de faire quoi que ce soit qui puisse mettre en avant cette publication, malgré le sourçage systématique des données sur l'hydroxychloroquine, c'est scandaleux.
Exactement, donc là vous ferez bip et on dira le médicament de l'IHU de Marseille. ça aussi, il faut aller voir, vous avez actuellement je vais dessus pour pas vous dire de bêtises non plus, mais vous avez plus de 120 études sur le sujet, en fait, qui démontrent que c'est utile. À quel point c'est utile, c'est ce que je ne sais pas vous dire. J'ai du mal à savoir à quel point ça va diminuer votre niveau de risque. Il y a 219 études autour de ce médicament et 156 études revues par les pairs. Et à la fois en traitement précoce et surtout en traitement précoce et un peu en traitement tardif, ça a l'air d'être utile. Moins que l'ivermectine de ce que j'ai pu lire moi, mais ça a l'air d'être utile quand même. Donc, vous avez
on mettra en lien dans la description.
Vous avez toutes ces options thérapeutiques là qui existent. Et l'autre chose, c'est l'organisation des soins. Si jamais vous laissez les gens à la maison avec tous ces traitements là, il y a de bonnes chances qu'ils n'arrivent jamais à l'hôpital parce qu'ils iront bien. Donc déjà, vous allez diminuer la charge sur l'hôpital et la réanimation. L'autre chose, c'est que pendant il y a un moment où après l'épisode symptomatique viral, il y a un moment où il n'y a pas de symptômes. La patiente ne ressent rien. Mais ça n'empêche pas qu'il peut s'installer ce qu'on appelle un orage inflammatoire. Et que cet orage inflammatoire, on peut le détecter par des tests sanguins, d'une part. Et on sait qui est-ce qui va le faire, les personnes à risque dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, il faut qu'ils soient continus, faut qu'ils continuent à être suivis régulièrement par leur généraliste. Et une prise de sang qui va détecter si la ferritine augmente, si les marqueurs inflammatoires augmentent, va permettre de voir s'il se passe quelque chose. Et dans ce cas-là, il y a peut-être certaines thérapeutiques comme les corticoïdes, c'est-à-dire une immunomodulation par les corticoïdes qui peuvent être très utiles. Et l'autre chose, c'est qu'il peut y apparaître ce qu'on appelle une vascularite, une capillarite pulmonaire, une atteinte des vaisseaux du poumon, qui est à l'origine de besoins en oxygène très importants. Le fait qu'il n'y ait pas assez d'oxygène dans le sang. On appelle ça l'hypoxémie. Et les gens ne s'en rendent pas compte. On appelle ça l'hypoxémie heureuse. Mais ça, on peut le détecter en mettant une petite pince qui s'appelle un saturomètre au bout du doigt et qui est en fait une petite lumière infrarouge qui va regarder si votre sang il est très rouge ou très bleu. S'il est très bleu, c'est qu'il est très pauvre en oxygène. S'il est très rouge, c'est qu'il est très riche en oxygène. Ça va vous donner un score de saturation. La saturation, c'est quoi ? C'est si vous vous souvenez du dessin animé La Vie, les globules rouges, ils ont un sac à dos et dessus, il y a des molécules d'oxygène. Bah, la quantité d'oxygène dans le sac à dos des globules rouges, c'est ça la saturation. D'accord. Et c'est normal quand c'est à 100% et puis vous êtes mort quand c'est à 0%. Et tant que c'est au-dessus de 95%, c'est normal, on va dire. En dessous de 95%, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et à partir du moment où il se passe quelque chose, vous demandez à l'infirmière qui vient faire, par exemple, l'injection d'anticoagulant, de prendre la saturation le matin et le soir, ou au patient lui-même, il peut le faire, il n'y a rien de compliqué. Et à partir du moment où il est à moins de 95, tac, il y a un warning, on dit tiens. Et là, on peut mettre en route une oxygénothérapie à domicile. La Société de pneumologie de langue française a donné des recommandations en ce sens, qui permettent de maintenir les gens à domicile, et y compris avec de l'oxygène, mais pas avec trop d'oxygène, avec juste de faibles niveaux d'oxygénodépendance. Et qui dit que jusqu'à 4 litres et jusqu'à 94% de SAT, pareil, vous pouvez aller vérifier, vous pouvez rester à la maison, ça va, c'est safe. Vous ne prenez pas de risque pour vous. Mais qu'à partir du moment où vous avez plus besoin d'oxygène, là non, il faut aller à l'hôpital, ça commence à être un peu trop sérieux. Bah, tous ces gens-là que vous allez laisser avec un peu d'oxygène, et comment vous allez avoir de l'oxygène ? Il y a des prestataires de services, des entreprises qui vous fournissent des bouteilles d'oxygène ou qui fournissent ce qu'on appelle un extracteur d'oxygène, c'est-à-dire une petite machine qui va extraire l'oxygène de l'air dans la pièce et vous pouvez vous mettre dans des lunettes dans le nez. Et ça peut aller jusqu'à 6 litres.
D'ailleurs, l'un des fabricants s'appelait Luxfer, qu'on a laissé déposer le bilan apparemment en France. C'est un des producteurs européens.
Ouais, ça de bouteilles, ouais. Mais en fait, c'est tout à fait faisable, quoi. C'est tout à fait organisable. On l'organise déjà sans problème pour les post-opératoires ou les choses comme ça, ou pour les gens qui ont une oxygénodépendance chronique. Donc, on peut tout à fait le faire. Et ça va permettre qu'il y ait beaucoup moins de gens qui passent aux urgences parce que les gens, ils vont arriver, on va dire, ils ont trop d'oxygène. Il faut qu'ils aillent directement en service Covid. Et on connaît leur diagnostic. Il n'y a pas besoin de repasser par la case d'urgence. Donc, vous allez désaturer les urgences pour le coup. Et puis vous allez échelonner l'arrivée de ces patients sur les services Covid et échelonner ou diminuer leur arrivée sur les services de réa, et vous n'allez plus avoir de tension sur votre système hospitalier, et donc le problème il est résolu. L'autre chose, c'est que plutôt que de donner des milliards pour du remdesivir ou pour des vaccins, vous donnez ces milliards pour avoir des soignants, des médecins et des moyens à l'hôpital. Donnez-les-moi, vous allez voir, on va s'organiser un truc qui marche.
Oui, un paradoxe et une contradiction dans l'annonce des confinements qui sont liés à la saturation des hôpitaux et l'argumentation qui est de dire que ce n'est pas une solution d'augmenter les capacités des hôpitaux. Mais c'est sur ces critères-là qu'on se base pour confiner le pays. Donc, c'est vrai qu'à vous écouter, on comprend et on perçoit tout le recul que l'on a sur cette épidémie, toute la stratégie qui est pensée, j'imagine, par vous et vos collègues, parce que j'imagine que vous n'êtes pas le seul à penser ça. On a eu beaucoup de médecins qui nous ont donné des pistes comme la vôtre. Finalement, bon, on est dans un combat médiatique, puisqu'on entend bien que votre parole est très, très, très peu relayée dans les médias mainstream. Finalement, bon, on vous entend beaucoup sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui fait qu'on ne vous entende pas ? Est-ce que c'est parce que vous avez si peu de conflits d'intérêts ? D'ailleurs, quels sont vos conflits d'intérêts ? Parce que c'est une question.
Je l'ai dit au début, j'ai 450 € sur Transparence Santé. Ça, c'est le dessus de l'iceberg. En fait, si vous voulez comprendre les conflits d'intérêts des médecins, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut rentrer dans les détails. Il y a certains médecins qui ont des stock options. Donc, ça, vous ne le verrez jamais. Dans des industries pharmaceutiques, vous avez des médecins qui ont des bénéfices indirects parce qu'en fait leur labo de recherche est financé, mais c'est pas eux directement. Donc ça, vous avez plus de mal à le voir. Il faut aller le chercher sur le fond. Donc le petit morceau de l'iceberg que vous pouvez voir, le haut de l'iceberg, c'est Transparence Santé. C'est une base où les industries de santé elles-mêmes, chaque fois qu'elles vous payent quelque chose, un congrès, un repas, sont obligées de le marquer. Moi, j'ai 450 €, c'est déjà beaucoup en fait pour moi. En vrai, j'étais surpris. C'est tous les staffs de service qui ont été marqués. Mais si vous prenez certains de mes collègues en centre-ville, ils ont 150 000 € sur Transparence Santé. Si vous prenez Karine Lacombe, je peux le dire parce qu'il y a des informations publiques, hein, elle a plus de 250 000 euros de conflit d'intérêts sur Transparence Santé.
C'est énorme. Ouais.
Donc, il y a un moment, ça doit être marqué quand vous parlez, d'où vous parlez. Moi, en l'occurrence, je n'ai rien à gagner. Vous m'avez posé la question pourquoi je me suis mis en route dans cette histoire. Je n'ai rien à gagner. J'ai tout à perdre, en fait. Mon statut, mon travail. Et donc, c'est vraiment l'idée de la résistance et de chercher le bien commun, en fait, qui m'anime. Moi, je n'ai pas d'enjeu d'ego. Hein. Oh, j'ai tué le père il y a 15 ans, ça va, je n'ai rien à démontrer. Quoi. Globalement, je préférerais vivre heureux et caché. Je préférerais
plus,
ça. Hein.
Plus confortable,
c'est sûr. Vous êtes plus attaqué dès que vous parlez. Alors, pourquoi je ne passe pas dans les médias mainstream? Vous avez vu que pour développer une pensée un peu nuancée et complexe, il nous a fallu déjà pas loin d'une demi-heure, trois quarts d'heure.
Pas le temps.
Et donc, si on vous laisse trois minutes entre deux plages de publicité, en fait, c'est un dîner de cons. Vous êtes invité pour passer pour un abruti ou un fou. Ouais. Parce que vous n'aurez jamais le temps de développer quelque chose qui est tellement en contradiction avec ce qu'on raconte toute la journée. Et ça, ça a été bien expliqué par Noam Chomsky, l'auteur de Manufacturing Consent, la fabrique du consentement. Il a dit, ouais, si vous avez que trois minutes, vous ne pourrez jamais développer une pensée. Or, il se trouve qu'en trois minutes, on est capable juste d'attirer l'attention, d'accrocher l'attention éventuellement de quelqu'un.
Exactement.
Et que c'est ce qui s'est passé la première fois que je suis passé sur CNews. J'ai dit aux gens, mais regardez les effets collatéraux de la crise sanitaire, de la politique sanitaire, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'ici. Et ça a fait réfléchir beaucoup de gens, alors même que j'ai eu trois minutes pour parler. Hein. Et de ce jour-là, j'ai été quasiment jamais réinvité, en fait.
Ouais.
Donc, je crois qu'un discours non violent qui ouvre à l'intelligence, qui fait réfléchir les gens, etc., en fait, c'est dangereux pour le système.
Puisqu'on rappelle, il y a que les médias, 90% appartiennent à 9 milliardaires, donc on est dans une logique complètement différente de celle qu'on imagine d'un média, c'est-à-dire une information transparente et puis librement financée. Là, on est vraiment dans des oligarchies médiatiques qui ont, on va dire, le monopole de 90% de l'information dans ce pays. Et puis, c'est le cas dans plein d'autres pays du monde. Donc, effectivement, on comprend cet effet mécanique et systémique que vous dénoncez assez souvent. D'ailleurs, un des rares médias à vous inviter, vous donner la parole longuement, c'est Sud Radio. On vous avait vu brillamment contre-argumenter face à un certain Blachier, Martin Blachier, qui vous avait, le 22 novembre, répondu certaines choses assez grotesques, on va dire, dans la gestion sanitaire actuellement en France. Et vous parliez déjà de la prolétarisation progressive des médecins. Vous parliez déjà des conflits d'intérêts et de ce fameux Kamran Abbasi, le directeur exécutif du British Medical Journal, qui le dénonçait. Vous parliez de Patrick Vallance, le président du conseil scientifique anglais, qui a reçu 500 000 livres d'action chez GlaxoSmithKline. Ça paraît incroyable, j'ai oublié de le relire tellement c'est…
Et 5 millions de dividendes en 5 ans entre 2012 et 2018.
C'est ahurissant. On voit déjà que vous dénonciez tout ce qui concerne le dogme vaccinal. Je vous cite, vous dites là on est dans le dogme des médecins qui rêvent du vaccin. On est dans une narration médiatique, donc vous dénonciez déjà cette construction, ce récit qui court-circuite votre pensée, je vous cite, qui est hypnotique. Si vous regardez les affiches du Point en ce moment, vous citiez, c'était il y a un mois et quelques, en ce moment, c'est l'après-vaccin. Donc, c'est vrai qu'il nous conditionne déjà à ce qui va se passer après, sans même questionner le vaccin lui-même. Donc, et vous terminez, et j'arrêterai là, donc c'est toutes les techniques marketing de lavage de cerveau, l'ingénierie sociale, donc on avait déjà documenté ça à Nexus. Est-ce qu'il est utile de faire, dans cet épisode sanitaire, de la critique médicale et scientifique, ou est-ce qu'il vaut mieux parler d'ingénierie sociale, en fait?
Je pense qu'il faut les deux. Je pense que vous devez prendre les interlocuteurs là où ils en sont. Et qu'il y a beaucoup de gens, si vous commencez à leur parler d'ingénierie sociale, en fait, ça leur fait peur. Et ils ne vont pas réussir à accepter cette idée-là. Je prends des gens, même dans ma famille, hein, sont encore dans l'idée que le politique, c'est un peu Charles de Gaulle, quoi. C'est les gens qui sont là pour le bien commun, rendre service, les libérer des nazis, etc. Donc, si vous commencez à leur dire, mais peut-être que le gouvernement ne veut pas votre bien, peut-être que le gouvernement serait la marionnette de puissance d'argent qui les dépasse, ça, c'est inaudible. C'est impossible à intégrer parce que ça, il y a une bouffée d'effroi, il y a une bouffée d'angoisse. Et donc, je crois que chacun est à son niveau de compréhension des problématiques qui sont regroupées autour du Covid. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je pense qu'on est dans une crise multisystémique C'est pas du tout qu'une crise sanitaire, c'est une crise sociologique, une crise environnementale, une crise démocratique, une crise économique, une crise financière, une crise idéologique, une crise du lien social et sociétal. Mmh. Et toutes ces crises-là, en fait, elles étaient déjà là en puissance. Elles sont juste venues maintenant se cristalliser autour du Covid. Mais en fait, elles étaient toutes déjà là. Ça ne date pas du Covid que nos politiques sont corrompues. Mmh. Ça ne date pas du Covid que les médias sont les nouveaux chiens de garde des pouvoirs d'argent. C'est Serge Halimi, on parle déjà il y a plusieurs années de ça, quoi. Ça date pas d'aujourd'hui, la propagande ni rien. Donc, si vous voulez, pour moi, il y a rien de neuf. Par contre, tout est mis ensemble à ce moment-là. Et c'est la caractéristique d'un déferlement totalitaire. C'est ce moment-là où vient s'installer un totalitarisme de manière extrêmement brutale et violente. Et je crois qu'on en est là. Donc, la question pragmatique, c'est comment empêcher ça? Et est-ce qu'on peut simplement l'empêcher? Je suis pas complètement sûr. Moi, c'est ma première réponse. Donc, pour moi, l'idée, c'est plutôt de se mettre en lien avec les gens qui vont survivre à ce déferlement totalitaire. Et donc, essayer de former un pack, un groupe, de serrer les coudes et de tenir le coup, accroché à des éléments de gros bon sens et de réalité, le temps que ça passe. Parce que si vous êtes tout seul, vous allez être emporté comme un fétu de paille dans le déferlement totalitaire. Si vous êtes dans la narration mainstream, que vous mettez votre masque comme il faut, vous allez être emporté comme un fétu de paille. Il va falloir réussir à tenir dans la résistance. La résistance, elle ne cherche pas à décaniller le pouvoir. Elle attend que le pouvoir tombe, parce que de toute manière, il va tomber. Parce qu'en fait, un système où on serait des esclaves dans un petit monde avec des robots gérés par le big data, par quelques fous dans la Silicon Valley, en fait, c'est pas un système qui peut tenir. C'est pas vrai. Ça tiendra pas dans la durée. C'est pas un futur acceptable, on va dire, et enviable. Donc, on peut parler de la problématique scientifique avec certaines personnes, et vous remarquerez que dans certaines interviews plutôt mainstream, je me cantonne à la problématique scientifique et je ne fais qu'aborder doucement le fait que peut-être il y a autre chose. Puis que quand je suis avec des blogueurs, des youtubeurs et autres qui veulent aller plus loin, on va plus loin et on va parler d'anthropologie de la technique, on va parler d'ingénierie sociale. Donc je pense que là, est-ce il faut que s'adapter quelque part.
C'est lié pour vous les deux disciplines, l'anthropologie de la technique et l'ingénierie sociale? Est-ce que vous arrivez à les lier? Ça vous a donné des outils de compréhension?
Ah oui, complètement. C'est-à-dire que ça nous fait aller loin, là, hein, Marc.
C'est vrai qu'on vous entend rarement parler sur l'anthropologie de la technique. Moi, je n'avais jamais entendu parler de cette discipline. Et je me dis, tiens, ça peut être intéressant d'expliquer très, très brièvement ce que c'est et en quoi ça peut nous permettre de comprendre ce que c'est que l'ingénierie sociale.
Alors, peut-être très brièvement, je peux vous amener un concept que vous connaissez déjà, qui est celui de la disruption et de l'innovation disruptive. Globalement, dans toutes les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, les écoles d'administration, il faut disrupter. Disrupter, c'est-à-dire quoi? Il faut casser les codes établis par le système. Parce qu'on est pris dans des carcans trop étroits, idéologiques, dans lesquels on est enfermé. Et donc, ça nous empêche d'être dans la start-up life et la start-up nation. Alors, certains vous diront, non, en fait, c'est l'héritage. Et on fait avec l'héritage. Et on le transforme doucement. Non, non. Dans la disruption, il faut le transformer de manière brutale. Et donc, actuellement, la plupart des gens qui font de l'innovation, on ne dit plus progrès parce que le progrès a plus trop le vent en poupe, c'est de l'innovation, et il faut qu'elle soit disruptive. Et disruptive, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'elle va toujours court-circuiter les capacités du groupe social et du groupe politique à établir le meilleur bien commun à partir de cette innovation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chez Heidegger, un système technique et un système socioculturel, quand ils sont accordés, il appelle ça une époque. Et puis, quand ils se désaccordent, que le système technique change, il faut un temps de réaccordage. On est entre deux époques. Et il faut le temps que le système socioculturel trouve comment faire avec cette technique pour faire le mieux. Le feu arrive dans la caverne chez les hommes préhistoriques. Il peut brûler, on peut faire à manger, on peut se défendre contre les bêtes, on peut réussir à se battre entre nous avec le feu. Il va falloir trouver qu'est-ce qu'on fait avec ce feu. Ça va nécessiter un certain temps lent où tout le groupe va se réunir, expérimenter, voir comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire le mieux, le pire. Ça doit vous rappeler le film « Les dieux sont tombés sur la tête » où il y a une bouteille de coca qui tombe chez les bushmen du Kalahari. Vous devriez le re-regarder parce qu'il est très bon, quoi. Il nous dit beaucoup de choses des systèmes techniques, justement. Et il vient semer la zizanie. Donc actuellement, les gens qui conçoivent même les systèmes techniques les conçoivent pour semer la zizanie, pour court-circuiter en permanence le fait que le groupe social puisse donner des règles du jeu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas vous qui décidez si vous avez un téléphone portable dans la poche. Ce n'est pas vous et moi qui décidons si nos enfants, après 10 ans, ont un téléphone portable. C'est celui qui disrupte. C'est celui qui a créé la technique. Et Donc, c'est Amazon, c'est Google, c'est Facebook qui définissent les règles du jeu. C'est Samsung, c'est Nokia. C'est plus le groupe politique ou la famille. Non, 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 non. Ça, c'est out. Et ça fait quoi ? Ben, ça fait que le groupe perd sa capacité à être ensemble parce qu'il est plus structuré par un idéal commun positif. L'idéal commun positif, Stigler, il appelle ça la protension collective positive. On n'a plus de protension, c'est-à-dire quelque chose à quoi on tend, collective, ensemble, positive. On ne sait pas ce que c'est le monde dont on rêve. Donc, ça fait qu'on se désunit. On devient des monades juxtaposées. Ça, c'est l'école de
Francfort. Des individus.
En sociologie, voilà. Des individus, mais qui ne sont pas individués. C'est-à-dire qu'on est tous pareils. Tout le monde a le même Facebook avec le même nombre de likes pour son petit déj pris sur la terrasse dans son lodge en Thaïlande ou je ne sais pas quoi. et va chercher. Donc, c'est que les mêmes personnes
qui sont
en lien et qui ont un craving pour le lien, qui voudraient être en lien parce que justement, elles ne le sont pas. Donc, elles vont passer leur temps sur les réseaux sociaux à essayer d'exister dans des espèces de narcissisme juxtaposé, mais qui ne sont pas du vrai lien social. Qui sont la règle du lien social devient donnée par Facebook. C'est Facebook qui, par le format même de sa page, décide comment vous vous mettez en lien.
Donc, on peut dire que le Covid-19 nous disrupte en ce moment.
Ouais, carrément, ouais. Et à plein de niveaux, ouais. Et les politiques passent leur temps à nous disrupter. Tous les 2-3 jours, enfin toutes les semaines, ils nous changent la narration, quel item on regarde au niveau épidémiologique, quelles nouvelles règles absurdes ils vont inventer en disant qu'il faut absolument le faire. Le tout pour toujours casser du lien social. Donc c'est cohérent avec ce que je vous dis, c'est qu'on est en train de casser le lien social. Et qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus de protension collective positive, qu'il n'y a plus d'idéal commun positif ? Il reste les protensions collectives négatives. C'est-à-dire quoi ? On est tous d'accord que c'est la fin du monde. Ah, mais on a tous toujours été d'accord que c'était la fin du monde. Ce n'est pas nouveau l'apocalypse. L'apocalypse de Jean, etc. Le Noé, voilà, les grandes eaux sur Terre, etc. Le déluge, ce n'est pas nouveau en fait. Mais en face, il y avait toujours un récit qui faisait sens de protection collective positive, qui tenait le groupe. Actuellement, vous n'en avez plus. Il n'y a plus rien qui nous tient ensemble. Et on en crève en fait. Donc là on a pas mal bifurqué, mais pour vous dire que ce Covid-19 c'est une occasion. Si vous êtes en permaculture, vous dites que le problème est la solution, que la crise c'est l'occasion d'une solution, c'est l'occasion d'une résolution. Ce Covid-19 il vient appuyer sur tous les points qui faisaient mal de notre société, qui était très malade et qui n'était pas malade d'hier, hein, qui était malade depuis bien longtemps. Et ben justement c'est l'occasion, pas de se réinventer ou de d'aller déconstruire ou je sais quoi. Non, c'est l'occasion de rêver ensemble vers quoi on veut aller. Et c'est comme ça qu'on peut rattraper les gens dans une idée de non-violente qui consiste pas à essayer de décaniller les menteurs. Les sophistes, ils seront toujours là. Il y aura toujours des menteurs, il y aura toujours des pervers paranoïaques qui cherchent à prendre en main le système. C'est juste que ces gens-là, il faut pas leur donner les clés du système. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs. Il faut qu'il y ait des gens qui les empêchent d'arriver là. Et il faut les soigner. Donc là, il faut soigner les gens malades. Mais les gens malades, attends Caroline, je finis juste un truc. Les gens malades, vous ne les soignerez peut-être pas. Et ça, c'est tout l'objet de la psychiatrie autour des pervers narcissiques. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce qu'on peut guérir un pervers narcissique ? Et y compris par l'amour, par exemple. Mais ce n'est pas sûr. Pas sûr. En fait, il est tellement plus en lien qu'il cherche à prendre le pouvoir sur tous les autres. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est tous les autres, ceux qui sont entre deux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont entre deux, simplement. Et qui ont peur de perdre des choses très réelles. Aujourd'hui, vous discutez des masques dans la rue avec les gens. Mmh. Il y a plein de gens qui vont vous dire « Ouais, je sais que ça ne sert à rien, mais j'ai risqué l'amende. Puis, c'est même pas que l'amende. Si chacun faisait ce qu'il voulait, il n'y a plus rien qui tient. » C'est vrai. Et si vous creusez encore, vous grattez, pourquoi ils mettent le masque ? Pour qu'on reste en lien. Et ça, c'est juste. C'est la stratégie qui est mauvaise. Ce n'est pas le masque qui va nous faire rester en lien. Mais rester en lien, là, dans notre société, ça, c'est hyper important.
Ouais.
Là, on est en train de séparer tout le monde, en fait. Séparer les complotistes des moutons Covid, c'est pas se séparer. À la fin, quand vous êtes séparés, Machiavel l'a dit, hein, le pouvoir il est plus entre vos mains. Vous avez été disrupté. Ouais. Et c'est plus vous qui décidez de votre destin. Donc là, à mon sens, il faut se remettre en lien. Et quelque part, peu importe le niveau auquel vous allez discuter, il faut plutôt écouter l'autre et voir où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il a des doutes. Et puis, avoir pas mal d'empathie, en fait, parce que finalement, être séparé, c'est très douloureux, c'est plus douloureux qu'être dans un mensonge. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a beaucoup de gens, ils vont préférer la parité à la vérité. Ils préfèrent rester avec leur père à hier, hein, paix à hier, oui. qu'être dans la vérité. Aujourd'hui, vous avez plein de médecins, ils mentent, ou en tout cas, ils se mentent à eux-mêmes, ou ils font mm-hmm. semblant de ne pas voir, parce que sinon, ils seraient exclus des médecins. Et peut-être même réellement, hein, dans notre collectif, il y a des gens qui ont perdu leur boulot, quoi, de parler, qui ont été virés. Donc,
et cette appartenance, cette volonté d'appartenance au groupe, selon vous, elle est plus forte que la vérité, que la recherche de la vérité?
Ah ouais. Ouais, je pense qu'elle est fondamentale. On est sur quelque chose d'ontologique, d'existentiel pour l'humain. C'est-à-dire qu'il a besoin du groupe pour pouvoir être un individu. C'est ce que dit Habermas, Jürgen Habermas, dans l'éthique de la discussion. Il commence par ça, hein, c'est l'exergue de son livre. Il dit il y a une double fragilité ontologique de l'individu et du groupe. Le groupe a besoin de l'individu et l'individu a besoin du groupe. Et donc, on a profondément besoin de former un nous pour pouvoir être un jeu. Alors actuellement, le nous est cassé. Ouais. Ben, en fait, je pense que c'est important ce que tu dis, l'idée de positionnement. Ça rejoint la question précédente, c'est un peu pourquoi les gens bougent pas, ou où est-ce qu'il faudrait les prendre, est-ce qu'il faut les prendre plutôt du côté scientifique ou plutôt du côté ingénierie sociale. Et que finalement, une des choses qui se passe, j'ai l'impression, qui fait que les gens bougent pas, c'est que tant que tu fais semblant de pas savoir, tant que tu regardes pas la vérité, tu n'es pas obligé de te positionner. Tu peux rester dans une position confortable de rien ne bouge. Et donc, ça va rester comme ça. Et je crois que c'est la grande illusion de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est de penser que ça va passer, on va revenir en arrière. Sauf que toute l'ingénierie sociale qui est faite et tous les gens qui sont aux manettes nous expliquent toute la journée qu'on va vers un nouveau monde. On va vers un ordre nouveau. On va vers une refondation des règles du jeu, etc. On va vers la fin de ton épargne, la fin de ta propriété pour le Forum économique mondial ou des gens comme ça. Klaus Schwab, le grand recette et tout ça. Oui. Et donc, on arrive à un moment où, donc ce que, la première chose que je voulais dire, c'est une des raisons qui explique pourquoi dans votre famille ou autour de vous, il y a des gens qui ne bougent pas. Quand bien même vous leur avez expliqué, etc. C'est parce que tant que vous faites semblant, vous n'êtes pas obligé de choisir. À partir du moment où vous savez, vous allez être obligé de choisir. Soit vous êtes un résistant, soit vous êtes dans la collaboration. Il n'y a plus d'alternative. Et donc, ça, ce n'est pas facile parce qu'il va falloir regarder votre propre lâcheté en face. Il va falloir commencer à monter en termes d'énergie personnelle si vous voulez être résistant parce que là, il va falloir lâcher beaucoup de choses. Ce n'est pas facile à faire.
Pour moi, c'est
une des lignes d'explication. Et donc après, qu'est-ce qu'on peut faire? Il se trouve que pour le moment, il va y avoir déjà 10-15% de résistants, de gens qui ont fait le choix. On dit, je ne veux pas de ce monde-là, en fait. Je ne veux pas de ce monde-là pour mes enfants. Je souhaite un avenir différent. Il y a des bifurcations possibles. Il y a une maxime en permaculture qui dit, il y a toujours au moins une autre façon de faire. Et moi, je me la répète tous les jours, hein, quand j'ai l'impression d'être bloqué. Je dis, il y a toujours au moins une autre façon de faire. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a même plein d'autres façons de faire. Et donc, là, il va falloir que chacun et en groupe, on passe en revue nos façons de faire. Une manière de résistance qui me semble extrêmement bonne et extrêmement légitime, c'est de s'accrocher au droit. Et jusqu'ici, on ne l'a pas tellement fait avec Réinfo-Covid, mais c'est de travailler le droit, c'est-à-dire travailler avec les avocats, travailler avec les juristes, les magistrats, travailler avec le législateur aussi, hein, pourquoi pas, aller les voir, les invectiver, leur poser question en fait, sur ce qu'ils sont en train de passer comme loi, et retoquer systématiquement toutes les décisions qui sont prises, les amendes, etc., faire qu'il y ait un référé liberté, faire qu'il y ait une action juridique. Et donc là, on est en train de se mettre en phase. On a, pour tout te dire, on a créé avec Réinfo-Covid le cercle maintien de l'état de droit il y a 2 jours, en fait, hein, avec des avocats et des gens comme ça, pour mettre en lien les collectifs d'avocats, que ce soit Réaction 19 de Alberto Bruza, que ce soit Divisio, que ce soit Maître Mana, que ce soit le maître Guyon, David Guyon de Click and Rocket et les autres, et j'en oublie hein, sûrement, je veux pas, voilà, Myriam Kernéis, etc. Enfin, il y en a plein. Tous ces gens-là, on va chercher à les mettre en lien et les mettre en lien avec les collectifs locaux, les individus, pour que les individus fassent les requêtes, pour que les collectifs locaux fassent les requêtes. Parce qu'il n'y a personne qui a envie d'aller au tribunal. C'est chiant, c'est de l'argent, c'est compliqué dans un monde auquel tu ne comprends rien.
Le dépôt de plainte, hein. CCR.
Ouais, des dépôts de plainte, ouais, exactement.
Il y a un nombre important de dépôts de plainte.
Mais pas du tout encore
les
assez.
Les PCR qui a été fait au niveau.
Et c'est pas grave. L'idée, c'est qu'ils vont être.
Qui a levé des confinements.
Maître Brouzat a porté
de plainte avec, contre X de la Cour pénale
internationale. Exactement, exactement. De faire signer à son médecin sa responsabilité pénale et civile. Il a fait un sur réaction 19, vous exactement. Pouvez trouver ça. Avant d'aller faire vacciner, que votre mamie se fasse vacciner, vous tendez au docteur et aux soignants, vous dites voilà, c'est votre responsabilité pénale et civile qui est engagée.
Justement, on invite les.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? En fait, de tenir l'état de droit. Pourquoi je vous dis ça, moi, mon expérience de lecteur, c'est d'avoir lu quelqu'un qui s'appelle François Bizot, qui écrit un livre qui s'appelle Le Portail, et ça se passe au moment des Khmers Rouges. François Bizot, c'est un lettré, quoi, quelqu'un qui connaît très bien l'arc-mer, un spécialiste de l'arc-mer, qui est marié à une Cambodgienne et qui vit là-bas. Et il se retrouve pris dans le déferlement totalitaire des Khmers Rouges, où quand même ils vont réussir à tuer la moitié de leur population en 3 ans. Hein, donc ça y va. Hein. Il se retrouve dans un camp avec Douche. Douche, c'est qui ? C'est celui qui a fait S21. C'est un camp extrêmement dur où ils ont tué plein de gens. Et qui est le second de Pol Pot, un idéologue des Khmers Rouges. Ça s'appelle Langkar, hein, l'idéologie Khmers Rouges. Et donc, il voit Douche dans la journée, il tue des gens comme ça, d'une balle dans la tête, parce qu'ils ont laissé tomber un seau d'eau ou ils ont laissé des bambous tomber. Et donc, il est vraiment dans le déferlement totalitaire. Et tous les soirs, il rediscute avec Douche. Il discute du droit, il discute des fondements idéologiques de Langkar. Il discute, et tant qu'il discute, il reste en vie. C'est un peu les mille et une nuits, quoi. Et là, c'est pareil, je pense. Dans ce déferlement totalitaire qui les conduit à faire un passeport santé, puis petit à petit à exclure les gens, à tuer les personnes âgées en EHPAD, etc. On est dans du lourd déjà, hein. On s'en rend pas compte parce que c'est couvert soft, mais on est déjà dans du très lourd en vrai. Et ça va être de plus en plus lourd probablement si on les laisse faire. Et ben, il faut tenir le droit. Il faut tenir le droit tous les jours, remettre les gens face à la réalité, leur dire vous êtes en train de devenir fou, vous êtes en train de me dire que le masque est plus important que le bloc de constitutionnalité. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas comme ça dans l'état de droit. Le masque est un décret local, machin, ça n'a rien à voir avec le bloc de constitutionnalité, par exemple.
Comme dans la situation réelle de tous nos droits fondamentaux. Hein.
Exactement. La déclaration des droits de l'homme, hein, simplement, quoi.
La déclaration.
Libre et égaux en droit, quoi. Ça veut dire quoi ? Si je suis vacciné, j'ai pas les mêmes droits qu'un autre ? Non, mais alors, je suis pas conforme, là, ça va pas.
Celui de prescrire, le serment d'Hippocrate. Voilà,
on en parlait, le droit de. Enfin, la vaccination, c'est quasiment un viol, en fait. Hein. On est dans une culture du viol. C'est-à-dire, je peux disposer de ton corps sans te demander de ton avis, et même si t'es pas d'accord, et de toute manière, je vais te faire une clé de bras dans le dos si t'es pas d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait ? Ça va pas, ça va vraiment pas, quoi, en fait. Oui. On ne doit pas laisser au roi le droit de cuissage, c'est pas possible. Donc, on ne doit pas laisser à des mafieux, des compagnies pharmaceutiques, le pouvoir de décider de ce qui rentre dans notre corps ou de ce qui. Voilà, c'est pas possible, ça. Oui. Donc, il faut tenir l'état de droit. Donc, c'est le premier élément, je pense, sur lequel il faut se cramponner. Deuxième, c'est qu'il ne faut pas le faire tout seul. J'insiste là-dessus parce que tout seul, vous êtes balayé. Alors que dès que vous êtes nombreux, vous êtes puissant. Et donc. Une des grosses recherches, c'est d'essayer d'être en lien. D'être en lien, pas que par Internet. Parce qu'en plus, Internet, si c'est le lieu de la résistance, il y a des chances que ça devienne aussi le lieu le plus contrôlé, voire celui qui tombe. Oui. Et donc, il faut du lien local, du lien de réalité avec des gens autour de vous. Ça commence, à mon avis, par ce que vous pouvez faire, c'est-à-dire le bon boss de fin de niveau pour les gens qui font du jeu vidéo. Vous n'allez pas commencer par essayer de faire la destitution de Macron avec l'article 68 avec des députés, alors que vous n'avez aucun lien avec les députés, aucun lien avec le Parlement, etc. Vous n'y arriverez pas, ça ne sert à rien. Par contre, allez à l'école, discuter avec la maîtresse, ça vous pouvez. Allez discuter avec les parents d'élèves pour le fait que votre enfant soit masqué, surtout sur le fait des enfants. Les enfants n'ont aucune raison d'être masqués, c'est un scandale. Ça, peut-être que vous pouvez commencer à le faire. Et déjà, essayer de voir si vous pouvez vous mettre en lien avec d'autres. Vous mettre en lien avec des médecins locaux. Nous, c'est ce qu'on essaie d'en faire, hein, de rapprocher des collectifs de parents avec des médecins, avec des avocats. Puis là, vous allez voir, quand les collectifs ils vont aller voir la directrice avec 3 médecins et 3 avocats, ça ne peut pas être tout à fait la même discussion que si vous arrivez tout seul en disant « Bon, en fait, mon enfant masqué, qu'est-ce qu'on fait ?» Là, d'un coup, ça va changer la donne. Et c'est l'idée de la non-violence en général. C'est de créer un rapport de force. La non-violence, ce n'est pas se laisser taper dessus, hein. C'est que ce soit Martin Luther King, Nelson Mandela ou Gandhi, ce n'est pas des gens qui se sont laissés taper dessus. Des gens qui ont établi des rapports de force et qui les ont tenus, mais sans aucune violence pour la personne en face. Vous savez, moi, je n'ai aucune violence pour la directrice, pour, même pour Macron, en fait. Je n'ai même pas de violence, quoi. Je pense que c'est qu'une marionnette, en fait. Et donc, j'ai presque de la peine pour lui, en fait. Je me dis, il ne doit pas bien dormir le soir, faire autant de mal dans sa vie au niveau karmique. Il va se réincarner en crotte de chien, quoi.
C'est un rôle pour que nous nous réveillions.
Voilà.
L'union fait la parole et le mouvement de la dame.
Et aussi ça que je voulais te dire, Caroline, en réponse à ta question, c'est que là, la problématique du vaccin, il s'agit de rentrer dans votre corps. Le masque, à la limite, c'était à l'extérieur. C'était déjà très toxique, mais c'est à l'extérieur. Là, vous rentrez dans votre corps. Les enfants, c'était hyper toxique. On touchait à vos enfants. Mais les enfants, ce n'est pas vous. Alors bon, vous laissez faire. Mais là, c'est vous. Bah là, vous êtes à l'heure du choix. Là, vous êtes à l'heure du choix. Vous ne pouvez plus faire semblant, en fait. C'est soit vous êtes d'accord avec le monde technosanitariste de la peur qui espérerait tout contrôler à coup de technologie, à coup de normes, à coup de restrictions de liberté. Mais c'est ça qui vous fait triper comme avenir collectif. Mais je pense que ce n'est pas vrai. Il n'y a personne qui peut rêver ça. Et c'est, à mon avis, la grande chance de cette histoire. C'est globalement, il n'y a aucune séduction dans cette idéologie. Il pouvait y avoir une séduction dans l'idéologie khmer, dans l'idéologie stalinienne, dans même, pourquoi pas pour certains, dans l'idéologie nazie. Mais là, il n'y a aucune séduction. Et c'est pour ça que ça va tomber. Personne ne croit à ça, à part les gens qui veulent plus de pouvoir et plus d'argent. Les autres font juste semblant ou sont aveuglés par une narration qui est fausse. Donc, soit vous êtes d'accord, mais je pense qu'il y en a très très peu, soit vous avez envie de faire un monde meilleur et vous faites votre choix, vous devenez résistant, soit vous pensez que vous allez revenir au monde d'avant, qu'il faut juste attendre que ça passe, faire le dos rond et ça va. Et là, en fait, bah, vous êtes à l'heure du choix.
Est-ce que vous avez constaté depuis le début de votre implication médiatique dans ce combat, plus de soutien de la part de vos confrères?
De mes confrères? Non. J'ai changé de monde, en fait, social. C'est nuancé, encore une fois. C'est pas oui-non, quoi. C'est comme les masques. C'est faut être plus subtil que oui-non, quoi, d'être pour ou contre. J'ai des confrères qui m'ont mis au banc, en fait. Pour vous dire, je devais encadrer une thèse sur un sujet très précis d'un interne, donc aller à la thèse. Et les professeurs qui encadraient la thèse avec m'ont dit « Ah ben non, s'il y a Fouché, on ne vient pas. » Empêchant du même coup le jeune interne de passer sa thèse.
De passer sa thèse.
Ouais. Incroyable. Pour un sujet qui n'a rien à voir avec ça, hein, qui est sur un truc en plus super intelligent, pirouette de low-tech, hyper bien faite. Enfin voilà, c'est un super travail, etc. Donc, vous imaginez le niveau de mesquinerie des gars, quoi. Et j'ai d'autres gens qui m'ont dit « Ouais, non, mais moi, je ne veux pas me positionner. Je veux juste… voilà, je n'ai pas avoir de problème de personnel à l'hôpital, etc. Donc, je m'en fiche de ces histoires sur la peur, sur le totalitarisme, etc. Ce n'est pas possible. » Donc, eux, voilà, ils sont désinvestis. J'en ai d'autres qui avaient peur, vraiment. Et qui ont dit « Mais tu ne te rends pas compte, on va avoir une cinquième, une sixième, une septième vague. On va tous mourir. » Et vraiment paniqué, en fait, de manière complètement irrationnelle. Et qui, eux, pensent que ce que je dis est dangereux, par exemple. Ouais. Ceux qui sont les tenants du système, qui veulent devenir professeur ou professeur, et ben là, vous avez deux types de gens. Vous avez des gens qui me disent ben, je suis entièrement d'accord avec toi, mais tu comprends, je vais devenir professeur, et donc il faut encore que je sois agrégé, voilà, il ne faudrait pas que je fasse trop de vagues. Je vais pas, publiquement, je ne vais pas m'afficher, mais voilà. T'as mon soutien moral, merci. Et puis d'autres carrément qui, eux, sont dans le système. Et eux ont tout à perdre, en fait, en termes de statut, de bénéfices secondaires, etc. Ils se rendent même plus compte, en fait. Ils passent leur temps à maintenir la narration de la peur et ouais. gouvernementale sans plus jamais questionner pourquoi ils regardent ça. Vous avez... ça, c'est... tout ça, c'est une infime minorité. L'immense majorité des gens qui m'ont écrit sont hyper gentils, lumineux, bienveillants, ont envie de s'investir et se sentent seuls, en fait, et impuissants. Et quand on leur dit, ben non, vous n'êtes pas seul et vous pouvez avoir de la puissance, d'un coup, vous réveillez des gens, ça devient des lions, quoi. Hein, et ça, vous avez, dans l'armée, il y a des combattants de lumière qui apparaissent, quoi, de partout. Et c'est la force inarrêtable de notre collectif, en fait. Donc, on est hyper ancré dans la non-violence, on est hyper individué, tout le monde est très différent, on n'est pas d'accord sur tout, et loin de là, et tant mieux, en fait. Et vous avez des gens simplement qui ont décidé une fois pour toutes qu'il fallait transformer la colère en courage. Et donc je suis soutenu par mes confrères, par beaucoup de mes confrères en fait, mais pas ceux auxquels je m'attendais initialement. Sur les virus ARN, on est les éléments scientifiques concrets, ils vont être difficiles parce que des suspicions en fait de choses qui peuvent arriver. Mais il y a déjà une étude qui montre que in vitro, le virus lui-même se rétrotranscrit dans notre génome, et ce qui expliquerait pourquoi il y a des gens qui continuent à cracher du virus plusieurs semaines, plusieurs mois après, qui font des Covid longs. Et nous, on l'a constaté en clinique, hein, des gens qui n'arrivent pas à se débarrasser du virus parce qu'en fait, ça y est, ils l'ont intégré au niveau génétique. Et que donc, il est probable que ce virus qui sécrète de manière, et qui vont resécréter à chaque fois qu'ils auront un petit coup de mou, on va dire. C'est-à-dire leur système immunitaire va prendre en charge la sécrétion virale qu'ils vont faire, l'excrétion virale qu'ils vont faire de temps en temps. Et puis, hop, moindre coup de mou, boum.
Comme les boutons de fièvre, en fait.
Un peu, voilà, ouais, exactement. Je pense que ça donnerait peut-être des formes un peu plus graves potentiellement, mais ça, je ne sais pas vous dire. Mais le problème, c'est que ce virus, il va peut-être se réapparier avec les autres viridés qui vont passer. Parce que c'est la fâcheuse tendance des virus à RNA, et notamment des coronavirus, que de se réassocier les uns aux autres et de se remodifier. Comme si on prenait un bout du vaisseau en Lego qu'on a fait pour faire un autre vaisseau en Lego. Et puis, voilà. Et ils passent leur temps à faire ça. Donc là, vous auriez effectivement une usine à synthétiser des viridés de plus en plus compliqués, alors soit dégradés et de moins en moins virulents, pourquoi pas. Ce serait une hypothèse optimiste. Soit au contraire, de temps en temps, la survenue d'une forme très virulente qui fait des formes très graves de la maladie. Mais ça, c'est lié au virus lui-même déjà. Si vous rajoutez en plus la vaccination dessus, à mon sens, c'est pas un bon choix, quoi.
Donc après, on pourrait déclencher un Covid après le vaccin Covid, finalement.
Alors, non seulement, alors techniquement, vous pouvez déclencher ce qu'on appelle des anticorps facilitateurs. Ça a été le dengue vaccin dont parlait Caroline. L'idée d'essayer d'éradiquer la dengue par Sanofi aux Philippines, ils ont fait un vaccin contre la dengue. La dengue, c'est une sorte de grippe tropicale, quoi. Et le premier épisode de dengue que vous faites dans une année, en général, il est bénin, quoi. Il se passe pas grand-chose. Vous avez de la fièvre, bon, vous êtes un peu au tapis pendant quelques jours, mais ça va. Par contre, vous développez des anticorps contre cette première dengue, et ces anticorps, ils vont être facilitateurs. Ça veut dire qu'ils vont aider la deuxième dengue à être beaucoup plus grave. Ils ne vont pas vous défendre, en fait. Et vous allez faire une dengue hémorragique. Et ben, le dengue vaccia, il a fait ça. Il a court-circuité la première dengue que vous auriez faite qui aurait été bénigne. Il vous a fait fabriquer des anticorps qui sont facilitateurs. Et les gens, ils ont eu une dengue et ils ont eu des formes graves d'emblée, dès la première dengue. Donc là, c'était la fausse bonne idée, quoi. Et ça... Ça arrive, les anticorps facilitateurs, dans les coronaviridés aussi. Donc, il y a des chances que potentiellement, les anticorps qui vont être bien pour la première forme de virus que vous allez rencontrer va peut-être vous aider pendant 3 mois, effectivement, à passer ce premier truc épidémique. Mais si ça se trouve, aggrave les formes que vous ferez dans 4 mois. Oh mince, ce serait vraiment une mauvaise idée. Ben, pour le moment, on n'en sait rien. Je peux juste dire qu'on n'en sait rien. C'est un risque potentiel et que ça fait partie de primum non nocere, quoi. Dans le doute, abstiens-toi. Quand tu sais pas, mais c'est drôle, les mêmes personnes qui se sont occupées de l'hydroxychloroquine pour essayer de savoir
le moindre détail de ce médicament,
ont voulu aller dans tous les détails méthodologiques, chercher si vraiment le niveau de preuve était correct, etc. Et sur le vaccin, ne demande pas ça. Mais non,
il y a un double standard.
Ouais,
géométrie variable, donc extrêmement méticuleux pour l'hydroxychloroquine qui a 70 ans d'utilisation, et extrêmement, on va dire, confiant et naïf avec un vaccin nouveau, une technologie nouvelle dont on n'a aucun recul.
Exactement. Oui. Vous devriez aller voir la notice du Vidal des vaccins. Vous allez voir qu'en gros, ça dit on ne sait rien, quoi. Elle est plutôt honnête, la notice du Vidal. Et quand vous lisez ça, vous, en tant que médecin, en disant « Mais moi, je vais prendre la responsabilité d'administrer ça à X milliards d'humains. » Enfin, non, ça ne va pas, en fait. Il ne faut pas faire ça. Ça restera un mystère, cette histoire de vaccination. On est dans du grand délire. Le rapport sénatorial H1N1 sur H1N1, en fait, qui avait, au moment de la grippe H1N1, il y avait eu la mise en place donc, du Pandemrix. Et les sénateurs ont vraiment bien précisé qu'il y avait des conflits d'intérêts massifs à tous les étages de la décision politique en fait, de vaccination, que le poids des laboratoires et des lobbies était beaucoup trop important au niveau de l'OMS, au niveau des structures françaises. Ils l'écrivent noir sur blanc dans un rapport sénatorial, si vous voulez. Et que le principal argument massu pour vendre les vaccins, c'est les sénateurs qui le disent, c'est la peur. Si vous maintenez la peur, tout va bien.
À un moment,
ça va fouiller votre canon.
La peur change de camp. Hein. À un moment, la peur change de camp.
c'est cette fameuse prise de conscience qui est en train de, effectivement, d'advenir. En fait, on se rend compte que les gens, le vaccin a fait éclater beaucoup de croyances en mille morceaux, puisque, comme vous disiez auparavant, tout ce qui tournait autour des masques, tout ce qui tournait autour des contraintes autour des enfants, bon, on a l'impression que c'est extérieur ou que c'est passager. Là, vous dites bien, vous le rappelez, c'est à l'intérieur de notre corps. Donc, peu importe notre consentement. Et c'est quelque chose qui reste jusqu'à la fin de nos jours. D'ailleurs, on a vu sur certaines technologies vaccinales, et on avait contacté l'une des sociétés qui en était la fondatrice, d'une technologie qui vient marquer sous la peau sous-cutanée la présence du vaccin. Donc, on viendrait vous pister si vous avez vraiment reçu le vaccin ou non, pour vous laisser rentrer ou circuler librement. Donc, on atteint vraiment un nouveau gap de société. Je pense qu'il commence un peu à percer l'univers passif des gens qui se disaient encore que ça allait et qu'on aurait pu retourner dans une société comme avant dans quelques temps. Donc, il y a une petite bascule qui s'opère, et effectivement, ce qui constitue aussi cette bascule, c'est par rapport aux effets secondaires. Et vous en parliez, et je voulais vous reciter par rapport à ça, le 22 novembre, sur Sud Radio face à Martin Blachier, vous parliez des fameux effets secondaires et vous rappeliez, et je voulais vous demander si vous aviez eu confirmation que c'était bien le cas pour ce vaccin-là, que les firmes vaccinales ne remboursent pas les effets secondaires, que c'est l'État qui les paiera. Forcément, si l'État les rembourse, il ne va pas financer la recherche sur les effets secondaires, c'est ce que vous rappeliez. Et puis, vous preniez en exemple la très faible bibliométrie qu'il y a sur les effets secondaires des vaccins. Est-ce que c'est toujours le cas? Et est-ce qu'on a des éléments concrets qui nous prouvent que les entreprises vaccinales, pharmaceutiques, ne rembourseront pas les effets secondaires sur ce vaccin?
Alors, les éléments concrets, ils sont dans les contrats, en fait, passés entre l'Union européenne et entre la Commission européenne et les firmes vaccinales. Et ces contrats, vous avez peut-être vu que Michel Rivasi, qui est député Europe Écologie Les Verts, a essayé d'y avoir accès, en fait, justement pour pouvoir dire ce qui se passe. Sauf que l'accès, il est dans un temps limité, dans une pièce où ils n'ont pas le droit d'avoir de téléphone, d'appareil photo, pas de photocopie, etc. Et où ils peuvent juste rapporter par oral des piles de dossiers. Et ils n'ont pas le droit de sortir les dossiers sur des piles de papier comme ça. Et donc, pour le moment, je n'ai pas eu de réponse stricte, mais je peux vous assurer que sur les vaccins d'avant, c'est évidemment le cas.
Oui.
Et que sur cela, ça ne va pas manquer, à mon sens. Voilà, moi je pense que là c'est un vrai travail d'investigation journalistique d'aller chercher cette info-là. Hein. Moi je l'attends.
On avait déjà documenté, donc concernant les anciens vaccins, les précédents, tous les autres, c'est effectivement vrai. Et d'ailleurs, on avait relayé le film 1986 The Act, d'Andy Wakefield, qui rappelait source et fait à l'appui comment ça s'est passé en 1986 aux États-Unis pour déresponsabiliser les entreprises pharmaceutiques par rapport aux effets secondaires, et comment ça s'est ensuite développé dans le monde entier.
Voilà. Ah ouais. Ça commence souvent aux États-Unis et puis ça arrive ensuite par le biais de l'Union européenne, c'est remarqué, que ce soit le Patriot Act et ensuite toutes les...
On a 20 ans de retard, comme d'hab, 20-30 ans de retard.
Juste un petit mot positif peut-être, c'est que en anthropologie, on s'intéresse aussi au rite initiatique et à l'idée de l'initiation. L'initiation, c'est... passer à travers une épreuve qui vous met en contact avec une souffrance terrible et avec la mort potentiellement. Vous fait regarder en face la mort. Et à partir du moment où... et c'est pour les hommes, parce que les femmes, en général, l'épreuve initiatique, c'est l'accouchement. Voilà. Et donc, dans plein d'ethnies différentes, il s'agit de vous confronter à quelque chose d'extrêmement dur, quoi. Accrocher des crochets dans les tétons, accrocher une pique, vous faire tirer jusqu'à ce que ça s'arrache, etc. Et vous êtes guidé par un chaman bienveillant qui vous guide sur ce chemin de souffrance jusqu'à ce que vous ayez traversé cette souffrance pour enfin faire partie de la tribu, pour enfin être un homme, en fait. Je crois que notre société, peut-être elle en est là, en fait. Elle est dans son épreuve initiatique. Mmh. Elle est en train de traverser une souffrance importante. Il va falloir qu'elle la boive jusqu'à la lie, parce qu'en fait, pour le moment, c'est trop confortable pour encore trop de gens qui n'ont pas réussi à s'individuer. Ils ne sont que des rouages d'un système économique, d'un système technique. qui ne sont pas devenus eux-mêmes, ils sont, ils savent même pas quoi penser, ils ont besoin de lire Libé ou Le Monde pour savoir ce qu'ils doivent penser, quoi, de la réalité. Et vous regardez BFM pour avoir une idée de ce qu'il faut penser de cette épidémie, ou Le Point ou Les Échos, quoi. Et y compris dans des strates techniques qui sont très avancées, c'est-à-dire des gens qui sont professeurs, chercheurs, etc. Ça ne préjuge pas du niveau d'individuation que vous avez. Au contraire, parfois, apprendre un savoir technique va faire que vous n'allez pas réussir à vous individuer parce que vous allez prendre le savoir technique comme individuation, alors qu'en fait, ce n'est pas vous. Voilà, les gens ils vont être professeurs de médecine. On enlève ça, ils ne sont plus rien, quoi. Ils partent à la retraite, d'ailleurs, ils tombent malades, ils meurent en 6 mois parce qu'ils ne sont rien, quoi, quand ils ne sont pas ça. Donc là, on est dans une épreuve initiatique collective qui va nous faire traverser ça pour en sortir le meilleur, en fait. Donc, voilà. C'est pas forcément facile.
C'est intéressant.
Ça veut pas dire que c'est tout confort.
Bien sûr.
Que si on donne un sens à ce qui est en train d'arriver, ça permet aussi de le vivre de manière plus facile.
Donc ça revient encore à toujours.
C'est dans des détails, mais vous irez voir une conférence d'anthropologie de la technique que j'avais faite autour de l'accompagnement de la souffrance, qui est en 3 dimensions. Et un accompagnement technique, la médecine, les médicaments, ce que vous voulez. Un accompagnement social, se serrer les coudes entre frères et sœurs humains quand il y en a un qui ne va pas bien ou quand il y en a plusieurs qui ne vont pas bien. Puis un accompagnement symbolique, c'est-à-dire donner un sens à la maladie, à la douleur, à la mort, donner un sens à cette crise. Cette crise nous permet de résoudre la crise environnementale, la crise médiatique, la crise démocratique. Et tous les systèmes sont en train de se désagréger. Petit à petit, le monde médiatique est en train de partir en lambeaux. Le monde politique va partir en lambeaux. Le monde scientifique est en train de partir en lambeaux. Les journaux scientifiques sont corrompus, tout le monde le sait, etc. Et tout est révélé, si vous voulez. L'apocalypse est faite, quoi. Révélation. Il y a ceux qui ne veulent pas voir pour le moment, mais ils vont être contraints de voir à un moment, hein, de toute manière, par la force des choses. Sinon, ils seront, comme je vous ai dit, entraînés dans le déferlement totalitaire et avec. Ils vont être vaccinés, ils vont être des pions dans un système. Et ils vont tout perdre, en fait. En croyant garder ce qu'ils avaient, ils vont tout perdre, en fait. À commencer par leur liberté, ensuite par leur corps, ensuite par leur capacité démocratique, ensuite par leurs droits sociaux, etc. Bref, ils vont tout perdre. Et au passage, dans cette désagrégation, les grains qui composent le groupe, enfin le système, apparaissent. C'est-à-dire que la publication scientifique, les scientifiques ensuite font ce qu'ils veulent. Ils sont libérés finalement de ce système-là. Et vous avez un tout petit nombre qui est pervers et paranoïaque, qui avait orchestré le système, mais qui est un tout petit nombre. Et l'immense majorité, c'est des gens bien, intègres, qui cherchent le bien commun, la vérité, et qui vont trouver d'autres façons de faire, au moins une autre façon de faire. Au moins une autre façon de faire, c'est qu'il y a des journaux scientifiques qui se sont créés ces 5 dernières années, qui sont complètement en dehors des conflits d'intérêts. Qui ont une ligne éditoriale qui est hyper propre. Vous avez l'équipe de l'IHU qui a mis en open source l'ensemble de ces data autour du Covid-19 pour que n'importe quel chercheur puisse publier sur leurs data. C'est complètement nouveau, hein. Il n'y avait personne qui avait fait ça avant, hein. D'habitude, c'est publish or perish, quoi. C'est surtout pas donner ces data aux autres. Et donc, c'est en train d'arriver. On veut vous enlever l'argent.
La science.
Il n'y a jamais eu autant de crowdfunding, autant de Tipeee, autant de gens qui vont dans l'économie du don, simplement, donner même leur temps, leur énergie, leur beauté, leur savoir. Je vous donne mon temps gratuitement aujourd'hui, quoi. Ça ne serait peut-être pas arrivé il y a 10 ans. Je vous aurais facturé la demi-heure. Attends, je n'en sais rien.
Quel grand moment pour remonter l'histoire et ouvrir les cœurs et contribuer, comme tu dis, à une démocratie représentative, une science participative et à une individuation qui ne soit pas de l'individualisme, mais représentative.
Ouais. Je crois que c'est à nous de le créer, quoi. Donc, c'est plutôt intéressant de réfléchir à ça. Et tous les germes sont déjà là, hein. Vous avez des gens qui ont réfléchi sur la notion de ce qu'on appelle les communs. Justement, qu'est-ce qu'on doit garder ensemble et quelles règles du jeu on se donne pour le garder ensemble et pérenne. La forêt qui est à côté, que Vinci, Eiffage et FIA ne puissent pas spéculer dessus et faire un immeuble de 40 étages comme c'est à court actuellement. Et vous dites, mais je ne peux rien faire. C'est juste à côté de chez moi. Ils sont en train de tout casser pour faire une route de plus. C'est des malades, quoi. Et vous ne pouvez rien faire parce qu'il n'y a que la loi de l'argent qui règne. En fait, ça y est, je pense qu'il faut y aller, quoi. C'est maintenant. Il n'y a pas de moment plus important que celui que nous sommes en train de vivre, en fait. Et c'est aussi ça qu'on réapprend au passage. C'est la fin de l'entretien, donc les fact-checkers sont déjà loin, quoi. On peut partir dans des choses plus spirituelles. On est à ce moment-là où il s'agit de revenir à l'instant présent. On n'est plus en train de projeter dans 3 ans ou il y a 15 ans, quoi. On revient ici et maintenant à habiter le présent. Le présent est la porte La pratique est la clé. Donc là, il faut pratiquer la liberté, il faut pratiquer le droit, il faut pratiquer la bienveillance les uns pour les autres, le lien, la relation, il faut pratiquer la parole juste, la pensée juste. Enfin, voilà.
De réapproprier notre autonomie collective et individuelle.
Exactement. Et ouvrir un chemin vers un avenir beaucoup plus radieux que celui qu'on nous propose. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire. Hein, là.
On participe en tout cas à toutes nos échelles à cela. Et effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de gens. D'ailleurs, je repense à l'action collective de Brusa. C'était assez spectaculaire de voir qu'il y a 1800 personnes qui se sont associées à cette action collective.
Il y a 5000 personnes qui ont écrit à la direction quand j'ai été convoqué à ma direction. Et encore, le compteur a été bloqué à 5000. Ça se trouve, il y en avait plus que ça. Les gens qui ont tous pris leur plume un par un pour écrire, pour dire non, mais Fouché, on veut qu'il parle. Quoi, en fait,
j'imagine que ça vous a aidé aussi dans votre rapport de force. Mais,
ça a complètement changé le rapport de force. On a établi une diplomatie, justement, exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que le fait de montrer qu'il y a un rapport de force, d'un coup, on a pu discuter. Alors qu'avant, on ne pouvait pas discuter. Avant, c'était tu vas fermer ta gueule, Fouché. Et d'un coup, ça, c'est devenu autre chose. Donc, en fait, on est puissant. Et l'action juridique, bah, on peut le passer en revue. Mais vous savez qu'en Autriche, ils ont retoqué le masque pour les enfants, je crois. Au Portugal, le test PCR à certains endroits a été retoqué. Donc, c'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Il faut juste continuer. Il faut y aller, quoi. Je suis d'accord avec toi, Caroline. Je pense qu'on a un moment où les compromis confortables, en fait, vont plus être possibles. Et donc, il faut accepter de lâcher des choses. Et dans tous les appels dans l'histoire, hein, que ce soit l'appel de Zachée, de Samuel dans la Bible, l'appel des apôtres, l'appel, il y a l'idée qu'ils lâchent ce qu'ils étaient en train de faire, ils abandonnent ce qu'ils étaient en train de faire pour se mettre à disposition, pour se rendre disponible. Et là, on se rend disponible quand on le fait, en fait, ce qui est mon cas, hein, voilà, ça occupe une grosse partie de ma vie actuellement. Ça nécessite des renoncements, comme je vous ai dit, au niveau relationnel, au niveau amitié, au niveau voilà, ouais, familiaux, même difficiles, mais je suis payé en retour au centuple, en fait. C'est-à-dire que tout, je reçois, tout ce que je reçois et la façon dont la vie est devenue trépidante, un peu trop parfois, fait que ce chemin-là, il est absolument juste. Quoi. Il n'y a aucun doute a posteriori. Et l'idée de fond, peut-être, c'est qu'il n'y a pas de messie, en fait. C'est que là, il faut que chacun se réveille, en fait, et se réunisse avec d'autres. Nous, on est là aujourd'hui en train de souffler sur les braises, hein, simplement, à essayer de les rassembler, de faire que ça prenne feu. Vous allez voir, quand on met des braises ensemble et qu'on lui donne un peu de combustible, ça va être des outils, une boîte à outils comme celle de Réaction 19, comme des éléments intellectuels que donne Nexus ou que donne Réinfo Covid. D'un coup, vous allez voir, ça devient une fournaise de créativité, de joie et de... Et les gens, quand on se réunit le soir tard sur Zoom tous ensemble, en fait, tout le monde sourit, est joyeux et rechargé en énergie, quoi. Alors que sinon, on passe notre temps à traîner des bottes de plomb, quoi, hyper lourdes quand on regarde les médias et les nouvelles.
C'est vrai que la solidarité revient vite et la joie de vivre assez vite quand on se regroupe. C'est spontané, quoi.
Nous, on a prévu à la fin, hein, qu'il y ait une énorme fête façon Astérix et Obélix. Hein, avec, on aura baïonné ceux qu'il faut baïonner en haut de l'arbre. Vous savez, Assurance Tourix, il est baïonné. On réfléchira sur qui on veut baïonner. Et accrocher, j'ai quelques idées, hein, ben, pour tout vous dire. Et puis, après, on fait une très grosse fête, quoi.
Ben, on invite vraiment.
Ce soir, une réunion stratégique tout à l'heure. Non, les prochains événements tout de suite, c'est la structuration du cercle des médecins. En fait, médecins, c'est difficile à structurer, hein, par nature, assez indépendant, assez accroché à l'idée un peu sociale de faire partie du groupe des médecins, etc. Donc, c'est compliqué d'obtenir, en plus menacé en vrai, hein, réellement par l'ordre des médecins, etc. Ouais. Nous, par leur direction, donc c'est assez difficile de faire bouger les médecins. Il se trouve qu'on a plus de 150 médecins dans le collectif et que là, on est en train de bien structurer ensemble le fait de justement pouvoir les mettre en lien avec des collectifs locaux, les mettre en lien avec des juristes et qu'en fait, l'ensemble de ces gens-là, tous ensemble, crée une force d'impact dans le réel très importante. Donc ça, c'est un peu une des prochaines idées. Puis de stabiliser le collectif aussi. Jusqu'ici, tout le monde est bénévole, tout le monde fait ça comme ça, mais la question de l'argent revient régulièrement parce qu'en fait, il faut payer le site internet, il faut payer des choses un peu pragmatiques, quoi, hein, simplement.
Est-ce que vous avez mis en place des dons pour pouvoir.
Alors, non, pour le moment, ce n'est pas en place, mais donc c'est probablement ce qu'on va essayer de faire là dans les 2-3 prochaines semaines. C'est d'essayer de structurer ça, mais d'être complètement transparent sur l'argent, quoi. On a envie d'être exemplaire sur le chemin, quoi, qu'il y ait voilà, que les gens puissent continuer à pouvoir imaginer qu'on est vraiment du côté du bien commun, quoi. Bien sûr. Et pas d'enrichissement qui est cherché derrière tout ça. Donc, et c'est pas notre domaine au départ, si vous voulez, d'aller faire du crowdfunding et tout ça. Donc, c'est pas très facile pour nous. C'est pas complètement évident dans notre logiciel, quoi. Donc voilà, la prochaine étape, il y a le côté juridique dont je vous ai parlé, hein, de structurer une force d'impact juridique importante pour aller tenir l'état de droit.
Ok, c'est noté. En tout cas, on relaiera un maximum les nouveautés, les nouvelles actualités de Réinfo Covid et puis des autres plateformes comme celle-ci qui sont primordiales dans cette période. Un grand merci.
On peut aller télécharger pas mal de tracts, de choses comme ça. Hein. C'est une toute petite chose qu'ils peuvent faire déjà, c'est d'aller mettre sur les pare-brises automobiles chez leurs voisins, aller dans la queue de la boucherie avec leurs tracts et s'en servir comme un élément de discussion autour de choses simples, du test, des masques, des choses pas forcément compliquées ni clivantes. Mais juste, voilà, on réfléchit ensemble sur les masques, on vit ça au quotidien, est-ce qu'on peut en parler, quoi. Il y a un moment où on fait tous semblant que tout va bien ou où on peut en parler, quoi. Je pense que déjà cet activisme-là, ne serait-ce qu'à ce niveau-là, il est super important, quoi.
Effectivement, rouvrir le débat qu'on a perdu, en fait, parce que là, on est dans des combats de chapelle et des conflictualités. Rouvrir le vrai débat, l'échange, l'écoute, l'argumentaire, l'argumentation, les sources, sourcer les informations et partager un maximum nos connaissances entre nous, même si on n'est pas d'accord. C'est, je pense, c'est l'essence même de la démocratie, le dissensus.
Ah oui, au contraire, c'est bien. Hein. Et juste, tu demandais le futur. On avait prévu de déployer Réinfo Covid en Réinfo Santé, que le Covid serve de prétexte, en fait, à Réinfo Santé, puis Réinfo Démocratie, puis Réinfo Individuation et Courage, puis Réinfo Médias, puis Réinfo, voilà, ce que tu veux, quoi. Donc là, Réinfo Santé, ça va arriver probablement hein, dans le courant du mois de janvier ou quelque chose comme ça, qui sera une vision beaucoup plus holistique en fait de la santé, qui essaye d'aller du réanimateur comme moi, très technophile quelque part. J'ai plein de machines, j'ai plein de trucs, jusqu'à un naturopathe ou des yogis, en passant par tout ce qui est possible, en essayant de pas tomber dans les gourous. Voilà, de tout bord, mais d'essayer d'être dans un truc où non, on essaye de mettre ensemble plein de savoirs, des savoirs anciens, des savoirs récents, de ne pas tout jeter le bébé avec l'eau du bain de la médecine allopathique ou de la médecine plus traditionnelle, mais au contraire d'essayer de voir comment les gens ils peuvent se réapproprier, redevenir indépendants sur leur santé, quoi. Exactement. Et donc, Réinfo Santé, les raisons d'être qu'on a mises, elles sont assez jolies, comme ça elle dit en une phrase, vous allez peut-être avoir du mal à tout comprendre, mais c'est ouvrir les chemins pratiques d'une santé autonome et intégrale. Ouvrir les chemins pratiques, ce qu'on pense, c'est une pratique quotidienne, la santé, une santé autonome, c'est-à-dire c'est vous qui décidez de votre destin, et intégrale, c'est dans tous les champs de votre existence. Et le deuxième pan de ce Réinfo Santé, c'est élaborer ensemble une sagesse du vivant. Parce qu'on pense qu'être en santé, c'est profondément avoir une sorte de compréhension subtile et un peu holistique du vivant.
Oui.
Et que ça s'élabore, c'est un travail. Ça ne vient pas tout naturellement comme un coup de tonnerre bien qui sûr. Vous tomberait sur la tête. Et ça ne s'élabore pas tout seul non plus. C'est pour ça que c'est élaborer ensemble une sagesse du vivant.
C'est primordial.
Ouais, et l'humour et la beauté. Hein,
exactement.
Rigoler et voir des choses belles, ça a été complètement oublié pendant cette crise. Je pense que 5 minutes par jour au moins, on doit rigoler et regarder et contempler des choses belles, quoi.
Exactement.
C'est ça qu'il y a des artistes dans Réinfo Covid, qu'on a cette chance là
on remettra le, parce que je l'ai découvert tout à l'heure, la petite rubrique sur les créations artistiques, parce que c'était assez, je trouve, surprenant de trouver ça sur ce site et très agréable.
Ouais, à la fin de la newsletter, si vous abonnez, souvent, et c'est pareil, c'est un peu censuré par Google parce que la newsletter est trop longue, mais à la fin il y a des morceaux de musique, il y a plein de choses, quoi, au niveau artistique. Ce qu'il y a sur le site, c'est tout petit par rapport à tout ce qu'on a. En vrai, on a un très gros potentiel. Mais peut-être qu'encore une fois, il faut le voir comme une opportunité de se dire, mais tiens, comment on met l'art dans le quotidien, dans un modèle économique alternatif, voilà. Comment on fait pour que ces gens-là y vivent, quoi. Est-ce qu'ils devaient être au crochet d'un État qui finalement est mafieux et dans les mains de multinationales, ou est-ce que en fait, ça dépend, encore une fois, de revenir à l'économie du don, hein, peut-être quelque part. On a besoin de nos artistes, quoi. Donc,
ça nous invite à redevenir les artistes de nos vies. Hein. On est
aussi.
Merci.
Profitons de cette période.
Merci beaucoup.
En tout cas, Merci, j'allais vous remercier en tout cas pour votre temps, surtout qu'on est allé au bout de la limite finalement qui était impartie. Donc on a pu explorer, je pense, le maximum de choses. On ne manquera pas de revenir vers vous si nécessaire dans les prochaines semaines, parce que je pense qu'il y aura énormément de choses à rajouter et à relayer d'après ce que vous allez faire sur Réinfo Covid qu'on publiera aussi. Merci beaucoup Caroline. On rappelle que votre interview, donc il y a une très longue interview de vous dans l'actuel Nexus qui est en ce moment en kiosque, donc c'est le numéro 132 qui est donc sur les mois de janvier-février, actuellement en kiosque ou disponible en ligne, on remettra les liens. C'est Caroline qui a fait l'interview, on a abordé déjà les sujets que l'on a vus dans cette entrevue, mais beaucoup d'autres. Ça se complète, donc on invite vraiment les gens qui peuvent se le procurer à le lire, et on vous retrouvera sur tous les autres réseaux alternatifs et sociaux, parce qu'on voit que vous êtes très actifs.
Ouais. On essaye, hein, les réseaux mainstream ne nous donnent pas la parole et on n'a pas forcément envie d'y aller. Je refusais d'aller sur BFM par exemple, et
on comprend.
Donc, non, heureusement que ça existe, hein, qu'il y a le contre-pouvoir, hein.
On va en profiter tant qu'Internet est encore, on va dire, plus ou moins accessible. Mais on rappelle aussi qu'il y a énormément de censure, et vous le disiez tout à l'heure.
Ouais,
il y a le mot hydroxychloroquine, Covid-19, sur une publication Facebook ou YouTube. Là, c'est la croix et la bannière, voire la censure pure et simple.
Nous, on a eu trois vidéos censurées, deux interdictions de publier sur Facebook, sur YouTube, une pendant 10 jours, maintenant pendant 15 jours. Prochaine interdiction, la chaîne tombe, en fait. Enfin, prochaine censure.
Exact.
Et c'était des vidéos sur les masques, des vidéos sur les tests. Waouh! Wow. Ça devrait faire réfléchir les gens. Pourquoi les GAFAM s'intéressent à ça, quoi?